With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Propulsé par mademoiselle.com.
Waouh, ça a duré super longtemps. Bonsoir et bienvenue dans le 150e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com.
150,
c'est un
truc de ouf.
Énorme. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous écouter. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a une équipe de choc.
Bien sûr.
Aujourd'hui, je vais commencer tout de suite par présenter mes coéquipières. Elle est autrice, réalisatrice, journaliste, twitcheuse, podcasteuse, youtubeuse, blagueuse, mère d'un chaton trop mignon. Et avec toutes ces casquettes, on pourrait penser que j'ai invité une hydre, mais non, elle n'a qu'une tête. Et en plus de tout ça, elle est hilarante. Et c'est ce trait de caractère qui a propulsé sa carrière au sommet, c'est-à-dire jusque dans Laisse-moi kiffer. Marie De Breuer fait sa première dans l'MK.
C'est moi, bonjour.
Quelle
à
description.
Tous et à toutes.
Ouais, c'est est-ce vrai que j'ai oublié des trucs, Marie?
Non, t'as rien oublié, tellement de casquettes, je sais pas, j'ai pas de fin de phrase. que ça ferait une montagne de casquettes, wow.
Si tu veux, LMK, c'est le podcast du kiff et de la digression, mais aussi tu peux faire le podcast de l'autopromo, donc si t'as des trucs à balancer sur ton Insta.
Abonnez-vous Instagram, abonnez-vous, donnez de la force, la famille, le fait bientôt dans les bacs.
La qui, elle rend.
Je rends les coms en double.
Et ton Insta, c'est Marie DBR, c'est ça?
Marie D-E-B-R.
D-E-B-R.
De comme vous voulez. C'est le début de mon nom de famille, ouais, Marie de. Mais après, si vous tapez Marie De Breuer, en vrai, il y a tout un tas de choses qui vont apparaître sur Internet. Et ouais, vous pouvez me suivre un peu partout. Bah, tu l'as déjà dit. Hein. Il y a YouTube, il y a Insta, il y a Twitch,
tout ça,
TikTok
tout ça.
Même.
Oh là là,
TikTok. Ouais. Why don't you sing? So.
Oh wow, ouais. On adore.
J'adore. Je vais aller checker ça. Tu vois,
je suis payé pour être là. Non, <c'est>... Toujours pas. Un jour peut-être. Vous allez me dire que j'aurais pu faire gaffe à ne pas inviter deux personnes portant le même prénom dans un podcast où il est déjà difficile de savoir qui parle, mais sa voix, vous la connaissez bien. C'est celle qui vous assène de mater toutes les saisons de Formula One. C'est celle de la meilleure backeuse depuis les meufs derrière les Destiny's Child. C'est la douce voix de Marie Vrignot, qu'on surnommera bien sûr Miss Moulaga.
Wouh ! Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va, Marie ?
Ouais, super.
Ah, super.
Super description, hein.
Bah, comme d'hab. Hein.
Écoutez, j'ai une anecdote. Une anecdote bof même à vous raconter. Vous savez, donc moi je suis ambassadrice de la série documentaire Formula One sur Netflix.
Drive to Survive.
Et en gros, j'en ai fait la promo et vraiment j'ai converti énormément de gens. Et figurez-vous que j'avais fait une demande d'accréditation presse pour aller voir le Grand Prix de Formule 1 de France.
Ouais.
Ils montaient.
Non.
Alors que t'es leur meilleure ambassadrice. Alors,
vraiment, j'aurais dit, enfin, j'aurais pas dit comme ça, mais j'aurais dit, frère, j'ai vraiment converti plein de gens, quoi, sincèrement. Et ils montaient. Alors qu'on pouvait faire plein de contenu trop cool, aller voir des meufs qui travaillent dans les backstage de la Formula One. Bref, ils savent pas ce qu'ils loupent. Les LM Crado, je savais que vous savez.
Scandale.
On est les vrais. Voilà.
Je vais tweeter.
Bisous.
Ça part en tweet direct.
Ça m'a ghosté direct.
Oh là là. Voilà. Trop d'ec pour
toi. Un
egg
bof. Mais c'est pas grave, la vie est belle.
Ouais. Comme c'est bien.
Mais c'est pas grave. Ça, tout.
Et oui, ce pas grave, était éclaté au sol. C'est Verstappen qui a gagné, donc pas de regret.
Ah ouais.
J'ai rien compris.
Ouais. C'est un pilote que j'aime pas, globalement.
On le déteste.
On le déteste.
Ouais, on peut le dire. De toute façon, ils veulent pas que tu viennes au Grand Prix, donc
exactement.
On peut dire tous les gens qu'on
on
déteste.
On pisse dessus à Verstappen.
Alors, quelle liste de gens qui détestent, tu voudrais dire?
Moi. Et il y a toi en numéro 1.
Marie, je sais que c'est faux. Quand on cherche tous les synonymes de gauche, on tombe sur maladroit, malhabile, empoté, godiche ou encore la République c'est moi. J'invite le dictionnaire à revoir ses définitions car en réalité, tous ces synonymes sont de droite. Et je le sais, car à ma gauche, bizarrement, est assise aujourd'hui la spécialiste de ce qui est de droite ou de gauche, Aïda Djoupa.
Oui, c'est moi. J'adore cette description.
Ouais,
c'est
merci.
La description la plus précise de mon métier de rêve que tu viens de donner. N'hésitez pas à m'inviter BFM si vous voulez savoir ce qui est de gauche ou de droite, car ouais. C'est moi la,
principalement, la référence. Principalement, tout est de droite, non, si je me trompe pas.
Moi, ça va.
toi ça va.
Mon chat ça va.
Moi je suis de droite, je vous ai pas dit.
Ouais, bah ouais.
C'est une blague, les gens ne le savent pas.
Ah, mais t'inquiète pas, je suis avec toi, Marie.
Nous sommes de droite.
Ouais, yes,
j'ai une particularité.
Mais oui, j'ai fait...
Et je vous adore pourtant.
J'ai fait exprès d'inviter Aïda dans un podcast où il y a Marie Vrignot, Miss Moulaga, puisque voilà, je sais qu'il y aura des débats infinis.
On s'aime quand même. On s'aime quand même avec Aïda.
Et moi, je suis Alix Martineau et je serai l'animatrice de ce podcast.
Et la best.
Comme d'habitude. Comme je crois que ça fait...
Quoi, l'ampleur. Ça va. On peut couper, ça va, ça on va. En parle, on se fait un café.
Ouais, peut-être. Peut-être on va couper. Non, mais je crois que ça fait genre presque 100 LMK que je suis l'hôte.
Wow, donc ça y est, t'as
dans
pris
10
le...
LMK, je
dans
crois que c'est... Ça fait 100.
Ah ouais, d'ouf.
Bisous, Louise, qui a créé ce podcast et qui reste la déesse du podcast.
On l'aime.
Pour toujours et never and ever. Est-ce que vous avez des commentaires? Je me tourne vers Aïda et Marie Vrignot, Miss Moulaga, puisque Marie de Breuer, tu n'as jamais fait de LMK.
Non, oui, donc j'ai des commentaires, moi, sous mes vidéos à moi, mais ça n'a aucun rapport, quoi.
S'il y en a un que tu as envie de partager.
Mais peut-être que tu auras des commentaires la prochaine fois que tu viendras dans LMK. Enfin, si l'expérience
me plaît.
Se reconduit.
Bah, je vous dis ça dans un petit quart d'heure.
Ça roule. Marie Vrignot.
Je commence? Eh bien, oui, j'en ai un de Cécile. MZR, qui est très marrant, qui va finalement vous montrer, encore une fois, que la France est un village. Okay.
Ça, et la vie est belle. La France est un village, et la vie est belle.
Alors, bonjour Marie, je t'écris aujourd'hui pour te raconter une histoire que l'on pourrait classer presque comme une anecdote bof de star. J'espère que tu prendras le temps de me lire, évidemment. J'écoute LMK depuis le tout premier épisode et je me suis régalée chaque jeudi de vous écouter. Oh. J'ai été ravie de te voir rejoindre le podcast et j'adore toujours tes recos. Ce sont les meilleurs, bien sûr. J'ai essayé plusieurs fois de convaincre mon mec d'écouter avec moi, mais sans succès. Bon. Oh. Je t'avais déjà entendu parler du fait que tu venais en Bretagne, que tu allais à Port-Louis en vacances. Mais sur le moment, je ne l'ai pas tilté. Et puis, les dernières fois, tu es allée à un mariage, à Kervignac. Improbable, c'est là où a grandi mon mec, justement.
Oh.
Je lui montre la story, mon mec donc. Et là, il voit ta tête et il me dit le plus naturellement du monde, « Bah oui, c'est Marie Vrignot. » Et elle, « What ?» Genre, « What ?» Il connaît Marie Vrignot que... J'écoute depuis 3 ans dans l'MK, je ne suis qu'à une personne d'écart de Marie Vrignot. Et surtout, il reconnaît Maxime, le marié de ce mariage, avec qui il avait fait les 400 coups, plus jeune, et qu'il avait perdu de vue. Du coup, grâce à ça, on a pu le recontacter et il espère le revoir bientôt. Donc voilà, c'était une anecdote bof de star dont tu es le sujet. Et du coup, grâce à ça, il a écouté les épisodes dans lesquels tu es. J'ai gagné.
Waouh !
Incroyable !
C'est
un
trop
mime,
c'est
très marrant. Et du coup, bah, je connais... Enfin, bien, non, pas bien, je connais Ronan. Bisous à lui, bisous à eux deux. Et bah voilà,
trop Ronan, drôle,
c'est incroyable, quoi.
T'es la star de la Nekbob de Star.
J'adore.
Ouais,
t'es la star de la Nekbob
de Star. En tout cas, tout ça pour dire que, effectivement, c'est incroyable à quel point les gens de mon ancien lycée écoutent LMK, puisque c'est, je crois, la 2e ou 3e personne qui, par hasard, me dit bah, ah, mais tu es dans LMK. Et oui, bien sûr.
Est-ce que t'as envie de leur dire chais?
Ouais,
j'ai envie
de leur dire. Ils sont sur la liste des gens que tu détestes?
Non, je les aime beaucoup.
Ah, bon, ça va. J'ai vu un clin d'œil partir.
Voilà, c'était pour rire.
Aïda, est-ce que tu as des commentaires?
Alors, j'ai des commentaires.
Oula, je sens que quelqu'un n'a pas fait ses devoirs.
Que
quelqu'un
je n'ai pas sous les yeux.
Voilà, bien sûr,
parce que j'ai pas fait mes devoirs, parce que faire ses devoirs, c'est de droite.
C'est de droite, bien sûr.
Oui. Mais je m'en souviens très bien, car j'ai une excellente mémoire.
Oh là là. Et elle retombe sur ses pattes, mais c'est magnifique.
Non, j'ai reçu des messages là, après mon dernier passage dans LMK, parce que. Au cours de la dernière émission où j'étais là, j'ai parlé du fait que j'étais originaire de l'île d'Ouéa en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, il y a des personnes, genre 3-4 je crois, qui m'ont envoyé des messages sur Insta en me disant « Bah Aïda, je suis en Nouvelle-Calédonie, trop stylé d'avoir une personne d'origine. »
C'est vrai, on a des LM Crado de Nouvelle-Calédonie.
Il y a des LM Crado qui nous écoutent de l'autre bout du monde, genre 18 000 ou 24 000 kilomètres, quoi. Très très loin.
Incroyable.
Qui nous écoutent avec un décalage horaire de bâtard. Je le sais, car appeler ma famille, c'est très difficile.
Ah bah oui. Et c'est pas genre 24 heures de décalage horaire? Ah bah non, du coup, ça serait
c'est 12 heures.
Ça fait trop. 24, c'est pas possible.
Par contre, c'est plus de 24 heures pour y aller.
Oui,
c'est ça que je voulais.
Oui, voilà. Ouais, merci, merci Marie. T'es rattrapée.
Le billet. Et c'était pas ma destination de Vax.
Tu connais.
J'ai regardé, hein, j'ai tenté. Bon.
Tant pis.
Dans une autre vie.
Peut-être.
Ouais, ça
quand
fait
tu
longtemps.
Seras payé pour participer à des podcasts.
Par exemple.
Mais ouais, donc c'était trop bien. En vrai, j'étais trop émue de voir qu'il y avait des gens en Nouvelle-Calédonie qui écoutaient Laisse-moi kiffer et qui avaient dit « Oh, trop stylé, Aïda Lian Douvea et tout ». Du coup, voilà, toutes celles et tous ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie en ce moment, vous avez grave de la chance. C'est vachement plus beau que Paris. Je vous adore, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'aurai le seum.
Bisous. Tu vois, 24 000 kilomètres, moi j'ai toujours un problème de distance. Je sais jamais si les choses sont loin ou près. Mmh. Genre 24 000 kilomètres, j'aurais pu te dire, je sais pas, on est à 24 000 kilomètres de l'Espagne. Tu vois ? Genre, je sais pas.
Ouais, quand même.
Ouais. C'est pas
on
ouf.
À revoir.
Genre, on est à combien de kilomètres de l'Espagne ? Je sais pas, tu vois, 600 ?
T'es à 500 mètres du McDo, par exemple.
Ouais, ça va. Ça, j'ai capté rapidement.
Les mecs, ça va. C'est
on est à 500 kilomètres de Bretagne, je crois. Donc le sud.
Ah, 500 km de Bretagne, ouais, okay, okay.
Donc on doit être à 700-800 d'Espagne.
Ouais, et moi ma rêve c'est Paris-Lyon. Et c'est à peu près 450 ou 500, ouais, je crois.
Je pensais que c'était et genre 2000 km.
Paris-Lyon.
Vraiment. Et je pensais.
Mais 2000.
Imagine une voiture. Elle a 130 km. Comment t'arrives?
Mais voilà, c'est ce à quoi il faut que je pense. mais voilà, j'ai pas de d'évaluation des distances.
Ouais, je comprends.
Voilà, c'est et pas
on
un
peut
truc.
Pas tout avoir.
Mais tu sais quoi, voilà, tu cours maintenant régulièrement et tu vas voir, tu vas la voir grâce à ça.
Mais oui.
Moi maintenant que quand je cours, je sais qu'est-ce que représente un kilomètre. Et vraiment, je peux te dire, de là, c'est un kilomètre deux, tu vois.
Mais tu sais que ça, maintenant, je le vois parce que, alors, je me permets de me la péter. En fait, ce matin, j'étais dans mon lit et je me suis dit, oh là là, il fallait que j'aille courir ce matin pour deux raisons. Un, parce que j'essaye d'aller courir deux à trois fois par semaine. J'ai changé,
tu
hein.
Y arrives.
Et j'y arrive, parfois.
C'est
et
beau.
Deuxième raison, parce qu'il fallait que je fasse un shampoing. Et je n'aime pas faire un shampoing si j'ai pas fait de sport avant, parce que je trouve que c'est un shampoing raté.
Ouais,
je
vois.
Sais pas si vous voyez.
C'est inutile.
C'est inutile.
Ah ouais,
voilà.
Ouais, je suis fière.
Ou de faire du sport le lendemain de shampoing.
Ouais.
Ouais, ouais, bah non,
ouais, de
c'est
ouf.
Clair, c'est clair.
Du coup, je me suis dit ce matin, j'y vais un petit peu, tu vois, je vais y courir vite fait. Et je me suis dit, je vais faire que 4 km. Parce que comme ça, comme j'en ai déjà fait 10 lundi, eh ben, je vais faire 10 km en tout une semaine.
Et ouais.
Et du coup. Je suis allée faire 4 km ce matin, j'ai même fait du fractionné et tout. Bref, je sais plus pourquoi je disais ça, juste pour me la péter.
Ouais, c'est ça.
Je crois que
ouais.
C'est ça.
Tu réussis très bien.
Et les distances, l'appréciation
voilà.
Des distances.
Et les distances, et du coup, maintenant, je sais que de chez moi au quai, il y a environ 1 km.
Voilà.
Voilà.
C'est pas appréciable quand même. Bon, c'est pas un truc sur lequel tu vas vraiment pouvoir enrichir ton CV, mais ça fait plaisir, tu vois.
Toi, Marie, il faut que tu l'éloignes un petit peu.
Ah, d'accord.
Voilà.
Okay. Non, pas trop, mais vas-y, parle.
Comme ça, là.
Parce qu'on entend beaucoup tes consonnes.
Ah.
D'accord. Tu pouvais parler qu'en voyait.
C'est bon comme ça.
Ouais, c'est mieux, ouais.
Ok, d'accord.
Super.
Super. Moi, c'est parfait.
Toi, c'est parfait, Aïda.
Ouais.
You are perfect, Aïda.
Moi aussi, j'ai un commentaire, car comme vous le savez, si vous êtes des bons LM Crado, vous laissez des commentaires sur
Apple Podcast
avec
5 étoiles.
Voilà un des gimmicks dont je t'ai parlé.
D'accord. Je ne ferai pas la promotion de ce podcast. C'est hors de question.
Tu feras la promotion de ton podcast si tu veux aussi.
Non, t'inquiète.
Alors, c'est un commentaire de Soho qui dit 5 étoiles en titre. Ok. Et donc son commentaire c'est 5 étoiles sur Apple Podcast. Depuis le temps que j'entends dans mes oreilles, je laisse enfin un commentaire. Merci pour vos kiffs chaque semaine, vous êtes la meilleure team. Votre évolution entre les premiers épisodes et aujourd'hui est tellement inspirante, vous déchirez. Et continuez les digressions, c'est presque ce qu'on préfère. Solène. Bisous trop Solène, mims. Trop mims. Mais j'ai aussi une anecdote de star. Alors Marie, les anecdotes de star, ce sont des anecdotes bof avec une star. Ou alors, c'est une anecdote avec une star bof.
Ok, j'en ai une de ouf et c'est les deux.
Oh, incroyable.
Voilà, je vous trop hâte.
Okay.
Star bof, anec bof.
Je lis celle de Pasquale BRD et ensuite c'est à toi. Le titre de son anec bof c'est « J'ai failli écraser une fleur ». Bien mystérieux. Hello la team LMK, j'ai une anec bof de star avec Pat Flowers, comme on dit chez nous en Corse, autrement dit Patrick Fiori.
Oh, il l'appelle Pat Flowers.
C'est trop marrant. C'est improbable.
Ah bah mais oui, que en Corse. Ah, fiori, c'est flower.
Bah, je crois qu'en italien, c'est ça. Genre, pour dire une fleur en italien, tu dis fiore.
Ah.
Du coup, je pense qu'au pluriel, ça fait fiori.
Oh,
du
mais
coup,
c'est mignon.
Parla bien, italiano.
Si, molto bene. Parce molto que j'ai vécu un an à Rome.
C'est vrai.
J'ai été obligée d'apprendre l'italien.
J'ai rien. J'ai rien du tout.
Waouh.
Margherita.
Pizza, voilà.
Vous avez toutes des accents excellents.
Oh, merci.
C'est
merci.
Un peu un mensonge, mais moi aussi, mon accent, il est pas ouf. Du
mais
coup,
déjà, t'as dit fiori. Et moi, j'étais là. Ouais,
voyage, bien. Super, voilà. Ou alcoolisé, il est beau.
Exactement.
Donc, comme on dit chez nous en Corse, Patrick, Pat Flowers. Un jour, j'étais à la plage et de l'autre côté du parking de cette plage, à 2 mètres dans un virage, il y a une boulangerie.
Donc je passe ma best après-midi à la plage et vient le moment de rentrer. Je prends ma voiture, je sors du parking. Puis, au niveau du virage, venant de la boulangerie, un mec déboule de nulle part et traverse la route avec nonchalance et un grand sourire de couillon. Moi, je m'énerve parce que ce couillon m'a fait la peur de ma vie. Je l'insulte de tous les noms. Et alors que je tourne la tête vers le bord de la route, je constate que ce couillon, qui a encore un grand sourire, n'est autre que...
Pas sûr.
Pat Flowers.
Patrick Fiori. Et là, avec toute la discrétion qui me définit, je gueule « Bordel, le couillon, c'est Pat Flowers !» Et alors que je m'éloigne, je l'entends exploser de rire en répondant « Eh oui, c'est moi oh. !» Et en jetant un coup d'œil à mon rétroviseur, je vois Pat Flowers rejoindre la plage, mort de rire. Voilà, voilà pour cette anecdote la plus what the fuck de ma vie. Bisous la team LMK, et c'est vous mon kiff.
Oh,
oh trop mimi. Bon bah Pat Flowers a encore
je
eu chaud.
Je veux changer mon nom de Twitter pour Pat Flowers. Je veux plus m'appeler Marie. Appelez-moi
tu vas
Pat
avoir
Flower.
Plein de Corses qui vont venir te dire mais t'es pas la bonne personne.
Les fans Corses de Patrick Fiori, tous dans tes DM.
Venez, slidez.
Et t'avais une anecdote de star, il me semble.
J'ai une anecdote.
Ah,
tout
vas-y.
À fait. Nous sommes dans un train. Et parce qu'il n'y avait que 2 euros d'écart avec le billet première classe, je me dis, tu sais quoi, je me fais un
ouais,
kiff,
bien sûr.
Je passe en première. C'est genre, donc je m'installe tout ça, et je prends mon téléphone, et là j'apprends une mauvaise nouvelle. J'apprends une mauvaise nouvelle un peu à la con, c'est quelqu'un qui me devait de l'argent, qui ne veut pas me le rendre, enfin un truc qui me saoule.
Ah oui,
genre
une
vraiment,
très mauvaise nouvelle.
J'ai 400 balles dans le... Dans...
Ah, 400 balles quand même.
Voilà,
quand
c'est
même.
Un litige un peu compliqué, j'avais prêté ma voiture, bref, c'est allé à la fourrière, enfin toute une affaire. Et je rentre de mon week-end et là, je vois, désolé, je te rembourserai pas, c'est ton problème, c'est ta voiture et tout quoi, en gros.
What?
Et je suis là, genre, oh, c'est pas cool. Et je me mets à pleurer, pleurer. J'appelle
oh non,
des gens.
Ma bichette.
Je vais dans l'endroit où on peut parler, etc. Mais non, mais la Bernard, elle veut pas me rembourser. Et j'ose rien dire. En plus, il y a pas de contrat, il y a rien qui fait que je peux lui voler de l'argent.
Ouais.
Et je pleure. Bon, au bout d'un moment, je me calme, je m'assois à ma place et sur ma droite. Mimi Mathy.
Oh, non. Oh, Joséphine Ange Gardien.
Il y a José Fine qui est là en train de lire son bouquin, faire le même chemin que moi. On est en première. Hein.
Eh ben,
bien sûr. Et
ouais, c'est pour ça. C'est là qu'on voit
peu.
Les stars. En première classe.
Toujours.
Et quelle star.
Et donc elle est là et tout. Et moi je pleure. Et je renifle
T'as
un peu.
T'as des sanglots.
Et tout. Ouais. J'ai des sanglots. Et là il y a Mimi Mathy qui me regarde, qui avec un mouchoir qui dit « Vous voulez un mouchoir ?» Parce que là... Genre vraiment, ça suffit
Blasé.
Quoi. C'est dégueulasse.
Mais non.
Et moi, je suis là. Merci. Et je suis là, mais t'as si peu d'empathie
ouais,
pour moi.
Clair. T'es juste alors que... gardien, mais oui, t'es... bordel.
Ouais. Je pensais qu'elle allait être comme dans son rôle
ouais.
et qu'elle allait te faire un câlin
ouais,
et tout. En fait, la meuf, elle t'a snobé quoi.
Elle m'a snobé. Les reniflements étaient trop pour elle. Après, je mords beaucoup quand je pleure, donc je dis. Désolé, les MM crado, c'est pour vous, régalade. Et donc j'ai compris, et en même temps j'étais là, oh, je vis vraiment un mauvais moment, Mimi, pourquoi tu es pas sympa. Mais bon, j'ai utilisé son petit mouchoir et j'ai écrit les petits mouchoirs après. Non.
C'est toi,
la belle histoire.
Guillaume.
Je parle de ton.
Ah,
c'est pas ce film, si. Je sais plus.
Oui, si.
Enfin, tout ça pour dire que voilà, j'ai pleuré et Mimi Mathy m'a donné un mouchoir avec un peu les sourcils froncés.
Désagréable cette Mimi Mathy
ouais,
alors.
Voilà.
Oh, quelle déception.
Ouais.
Mais ouais. En même temps.
Et je veux pas me mettre dans la sauce avec Mimi donc.
Ouais. On l'embrasse quand même.
On
mais
l'embrasse quand
après,
même.
Chacun ses mauvais
elle
jours.
Aidé, mais bon,
elle
m'a pas...
Voilà, elle m'a quand même filé un mouchoir.
Ouais. Peut-être qu'elle aussi, elle venait
si
d'apprendre
elle
une mauvaise
filer
nouvelle.
Elle m'a filé
400
balles.
bah, merci beaucoup, Marie, d'arriver avec une anecdote de star
mais
comme
de
ça.
Rien.
Franchement, t'es la meilleure invitée que j'ai jamais eue. Enfin, je veux pas me mettre dans la sauce avec les autres invités, mais.
Mais tu peux le dire.
Mais je pense que je peux le dire. J'ai aussi une dédicace. Alors, on l'écoute.
Dédicace réponse à Sevda qui a le cœur rond mais aussi gros et lumineux comme le soleil du sud. Je te kiffe et je te souhaite plein de bonheur pour tous tes projets à venir. Bisous à la team et à tous les LM Crado. C'est un plaisir de vous écouter depuis le début en direct d'un poulailler dans le Lot.
Oh, oh trop mignon. Mignon.
Simplement adorable quoi. Je suis émue aux larmes. J'ai les frissons, j'ai tout.
Merci à Marie d'en faire des caisses pour bien faire comprendre à tout le monde qu'on n'écoute pas les dédicaces en direct. Voilà, on les met en post-production. Merci. Si vous avez des dédicaces, envoyez-les à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com en format audio, ainsi que vos messages boubou, vos messages réré, vos messages bourrés. D'ailleurs, en parlant des messages bourrés, si vous en avez, vous pouvez aussi me les envoyer sur Instagram. J'ai décidé de faire la paix avec mon organisation et que vous m'enverrez des messages du coup beaucoup plus spontanés. Parce que c'était le point d'un message bourré qu'on a reçu la semaine dernière qui nous disait « Attends, quoi ? Il faut... T'es bourré, tu dois enregistrer un message pour LMK et ensuite le mettre dans un mail. Enfin, à quelle heure tu fais ça ?» Et j'ai dit « Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Faux. » Donc, envoyez-les par audio sur Instagram à Laisse-moi kiffer. D'ailleurs, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Eh bien, écoutez, après ce petit moment voilà, où je remets un petit peu toutes les infos dans son contexte, c'est l'heure.
Incroyable.
C'est, franchement, 22 minutes, c'est l'heure du début de l'émission.
Et oui
C'est l'heure des kiffs.
Moi, je peux encore parler avant, hein, si vous voulez.
Tu veux dire quoi ?
Je sais pas, vous avez mangé quoi ?
Merci Marie. On va tout de suite entendre le jingle des kiffs.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Allez, on reprend.
LMK.
Sympa.
LMK FM.
C'est les gros kiffs.
Wow, merci Valentin. Si vous avez des jingles, envoyez-les à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, comme d'habitude. Eh bien, on commence tout de suite les kiffs avec Aïda. C'est parti.
C'est moi qui commence. Ouais, c'est toi qui commence. Je suis une rookie et tout.
Non, arrête de dire que t'es une rookie. Ça fait genre le cinquième LMK que tu fais.
Ouais, c'est vrai. Je dis ça pour que vous m'invitiez plus. alors, mon kiff. Il va falloir que j'organise un peu ce qui se passe dans ma tête parce que je suis pas très bien préparée pour ce kiff. Et en plus, je suis très émotive vis-à-vis de ce kiff. Peut-être que...
Donc peut-être que tu vas plomber l'ambiance, quoi.
Peut-être que je vais plomber l'ambiance. Peut-être que je vais pleurer.
Wow.
Peut-être que je vais crier. Enfin voilà, là tout peut arriver. Préparez-vous.
On accepte okay. tout.
On a le droit de vanner quand même.
Ouais, tu peux la vanner sur ses pleurs.
Grave. Ça me fout horrible.
Tu peux me donner un mouchoir et après te foutre de ma gueule.
Ça suffit là. C'est bon.
C'est dégueulasse.
Non, c'est un kiff. C'est un kiff cinématographique. Chose assez rare parce que je suis pas une grande meuf du cinéma, mais je suis allée voir un film ce mardi. Incroyable, messieurs dames, qui s'appelle Gagarine.
Et oui, super film.
Et oui, c'est un film français.
Que j'ai pas vu.
Qu'Alix n'a pas vu.
Mais que je devais, en fait, j'avais très très envie de le voir. Et même en projection presse, je crois que je devais aller le voir. Et puis finalement, j'ai pas pu ou un truc comme ça. Et j'avais trop trop envie d'aller le voir. C'est avec Lina Koudry.
Yes.
Qui d'autre ?
Bah après, il y a des acteurs qui sont pas très connus. L'acteur principal, il a genre jamais fait de film avant.
Ah bon ?
Et il a combien de cas sur Insta ?
Mais oui. Mais zéro, je suis allée le follow et tout, j'étais là, putain, il est trop
stylé.
T'es
la première à le follow.
On est genre 100, enfin tu vois, vraiment, il n'y a rien sur son Insta. De ouf, ça daronne, moi-même. Et il s'appelle Alseni Batili.
Okay.
Alseni Batili qui a chopé ce rôle grâce à une affiche dans son lycée.
Génial.
Et qui a été casté pour jouer le rôle principal de ce merveilleux film qui est Gagarine. Car tu as raté, Alix, en n'allant pas le voir. J'espère que tu vas pouvoir y aller.
Oui, j'espère aussi.
Bientôt. Mmh. Mais comme je vais vous le raconter, de toute façon, vous allez tous courir ce soir immédiatement en salle.
Ok, j'ai hâte.
Donc, Gagarine, c'est l'histoire d'une cité HLM qui a existé pendant très longtemps dans la ville d'Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, ce n'est pas n'importe quelle ville. Puisque c'est la ville où j'habite. C'est chez moi. Donc déjà, c'est trop bien. C'est une des dernières villes communistes de la petite ceinture.
C'est vrai.
Ce n'est pas pour rien que j'habite là-bas.
Tu sais que Pantin était communiste aussi pendant longtemps. Hein.
Bah ouais, mais toute la petite ceinture et tout. Et maintenant, tout le monde est de droite, non ? Enfin, je sais pas ce qui s'est passé à Pantin.
Je sais pas. Je sais juste que je reçois beaucoup de... Tu sais, des petits tracts là avec une faucille et un marteau. Je reçois beaucoup de ça et j'étais là.
D'accord.
Laissez-moi tranquille.
Moi, mon kebab préféré à Ivry, c'est un kebab qui est trop bon. Et en plus, au-dessus de la broche à kebab, il y a une vieille faucille, un vieux marteau accroché au-dessus.
Avec un peu de graisse.
De ouf. Qui sont le kebab, tu vois. À chaque fois, je suis là, ouais, c'est ma ville, j'habite là. Et bref, donc c'est l'histoire de cette cité qui a été démolie il y a quelques temps. Parce que moi, j'y habitais déjà quand elle a été démolie. Donc je crois que c'était genre 2019 ou 2020.
Attends, t'y habitais quand t'as été démolie ?
Quand la cité a été démolie, ouais. En fait...
Ah, t'habitais pas dans la cité ?
Non, j'habitais à Ivry, pardon. Okay, okay. Et donc, c'est une cité que, si vous êtes fan de PNL comme moi-même, vous connaîtrez peut-être, parce que c'est une cité qui apparaît dans le clip Deux Frères de PNL. Ils y ont vécu, et ensuite, quand ils ont tourné leur clip, ils ont mis un espèce de... d'immenses panneaux d'affichage avec leurs deux grosses têtes qui faisaient 12 000 mètres carrés. Enfin, comme Alix, j'ai pas de notion des distances, donc je sais pas.
12 000 mètres carrés, ça me semble là-bas. Pas très grand.
Un studio, normal.
Deux frères de fauves. Hein. Incroyable. Je suis très fan de PNL aussi.
C'est vrai, incroyable. Je t'aime trop. Donc tu vois à quoi ressemble ce bâtiment et à quoi ressemblait cette immense image de PNL qui était juste à côté de chez moi. J'y allais souvent pour la regarder. J'appelais ça mon PNL-rinage.
Oh. Ah, incroyable, mon PNL-rinage.
J'allais leur faire des bisous et tout.
C'est là, génial.
Là, je t'aime. Chaque fois que je passais à côté de l'affiche.
C'est ouf, je suis jamais rentrée dans la PNL hype.
Ah ouais ?
Ah ouais ?
Ouais. Oh là là. Oh là là. Oh là là, je viens de me faire rejeter de mon propre podcast.
Je suis un peu choquée et déçue.
Ouais.
Non, c'est
désolé.
Pas vrai.
Non, mais en fait, je sais pas, il y a trop d'autotune pour moi. Genre vraiment, j'étais là.
Alix, t'es un boomer.
Non, mais peut-être.
Ils ont passé les vraies voix, quoi. Mais on ne comprend rien. On a pas d'instrument,
l'accordéon.
Non, mais je pense que je suis pas assez connaisseuse, tu vois, pour kiffer.
Moi, j'avoue, vraiment. J'en connais quelques-unes vicieux que mon mec adore, et donc du coup, j'écoute par. Tu vois, comment dire.
Ouais.
Voilà. Vague. Ouais, vague, mais je connais pas non plus très bien.
Mais je crois que c'est. Faut PNL, faut y aller un peu à l'usure peut-être.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Tu vois, tu.
Faut que je m'use.
Puis il y a des trucs très différents, donc je pense que tu peux être sensible à un ou deux sons qui sont un peu calmes, tranquilles. Voilà, je sais pas pourquoi je prends cet accent. Rien à voir avec PNL. Et non, mais c'est tellement bien.
Ok,
je les ai vus 107 fois en concert.
C'est vrai.
C'est vrai.
J'exagère
c'est
un peu sur le 107. Hein,
ah.
Parce que
ok, parce que je sais que ça, c'est beaucoup de concerts quand même.
Ah oui. C'est pas beaucoup. Et en kilomètres, c'est pas énorme. Tu vois. C'est pas un week-end non plus à 107 km.
Ouais. C'est genre la Normandie, 107 km.
Ou pas encore.
Non, pas encore.
Non, t'es encore Île-de-France. Hein. Ouais. IDF. Hein.
C'est genre Coulommiers, non ? Ou ce genre d'endroit.
Ça, c'est un fromage, ça n'a rien à voir.
C'est la meilleure équipe pour faire des digressions. Genre, vraiment, on est parti d'un film, on parle de
Mon kiff n'a pas commencé.
C'est vrai. Pardon.
Non, on s'en fout, on peut continuer à parler de PNL. C'est mon kiff global. C'est ça, les jeux de ma vie.
À démo ou
Team à démo forever.
Ok.
Mais non, bref.
À NOS. Allez, hop.
Ah ouais.
Ah, vous êtes chacune votre team. Putain, il y a des scissions au sein des fans de PNL.
En vrai, c'est les frères ou c'est rien, tu sais.
Bah ouais.
Moi, c'est Team Yanis, c'est le petit frère.
Oh, mon petit chat, je l'adore. Non, mais j'aime PNL comme si c'était mes enfants. Genre, c'est trop bizarre. Des fois, je parle d'eux en mode ah, oh, mes filles, c'est tout. Je sais pas, je suis fière d'eux et je les aime, tu vois. Je trouve que tout ce qu'ils font, c'est incroyable.
Ah ouais,
chaque fois qu'ils réussissent un truc, je suis en mode putain, ils ont fait ça et tout. C'est trop ouf, je suis trop fière d'eux. Bref, je projette des trucs très bizarres sur PNL. Je les adore si vous m'écoutez, PNL.
Mais c'est facile, je pense, de projeter des trucs sur PNL vu qu'ils font aucune interview, tu vois. Genre,
oui, c'est vrai.
Tu projettes ce que tu veux en vrai dans ce groupe.
Leurs paroles sont quand même vachement explicites, genre quand tu connais un peu ce qu'ils font et que tu comprends le langage qu'ils utilisent, parce qu'il y a quand même des manières de parler qui sont pas accessibles quand t'écoutes pas de rap.
Tu vas sur
générale.
Rap Genius.
Exactement, mais c'est trop mal traduit sur Rap Genius. J'ai pas le temps d'aller corriger les interprétations de PNL sur Rap Genius, sinon je le ferais si j'étais payée pour ça, mais j'ai pas le time.
C'est un super taf ça.
Ouais, de ouf.
J'aime trop.
J'appelle Rap Genius. Peut-être eux ils me paieront.
Pauvre Marie.
Je rigole.
Je me sens mal maintenant.
T'inquiète, je suis blindée.
Je te donnerai 10 euros.
Donc, Gagarine, ce film incroyable qui a lieu dans cette cité du même nom, Gagarine, qui est en fait une immense barre HLM en forme de T, en fait. C'est un truc un peu impressionnant.
Tu peux continuer de digresser deux minutes. Gagarine, c'est pas un inventeur ou un truc comme ça ?
Attends, j'y viens.
Ah, pardon.
Oh, okay.
Chaque chose en son temps.
Mon kiff est
structuré parce que j'ai bien travaillé.
Waouh, incroyable.
Non, en gros, voilà, c'est une immense barre d'immeubles en briques rouges en forme de T. Si vous avez envie d'aller voir sur Internet, regardez, c'est assez impressionnant, en vrai, comme truc. Sinon, regardez le clip de PNL de Frères, vous verrez bien. Et en gros, donc c'est une cité qui a été inaugurée à Ivry-sur-Seine en 63, je crois, par la personne dont elle tient son nom, qui est Youri Gagarine, et qui est, genre, la première personne à travailler dans l'espace. En fait, c'est un Russe qui a été, peut-être que j'ai pas fact-checké ce que je voulais dire
avant
l'émission.
C'est pas grave, c'est le podcast, on est à 50% des infos.
C'est du Jean-Michel à peu près, genre il y a des choses que je vais dire qui sont vraies, vous pouvez fact-checker et ne pas me dire si j'ai tort parce que j'ai pas le temps.
Ah ouais.
Waouh. On est passé de quelqu'un très sympa à Mimimati.
Non, je rigole, dites-moi si j'ai tort, je me remets en question, promis. Donc, Yuri Gagarin, un cosmonaute russe, qui est la première personne à être allée
dans
l'espace.
Alors, est-ce que t'es sûr qu'on dit cosmonaute ? Parce qu'il me semble que astronaute...
Astronaute ? C'est quoi, cosmonaute ?
Ouais, en fait, je sais pas. Je sais que astronaute, cosmonaute et spationaute, c'est en fonction des nationalités. Donc, je crois que astronaute, c'est américain. Cosmonaute, c'est peut-être russe. Et spationaute, je crois que c'est chinois.
Et qu'est-ce qu'il dit ?
Je sais plus. C'est peut-être tout faux, ce que je dis. Mais
okay. N'hésitez pas à fact-checker et à le dire voilà, sur ces réseaux privés.
À me harceler de DM. J'adore ça.
En note vocale, voilà. De préférence.
En note vocale, voilà. Merci.
Donc je ne sais pas si c'est un cosmonaute, spationaute ou astronaute. Je vais dire une personne qui est allée dans l'espace avec une combinaison et une fusée.
Merci pas. Mais je voulais dire mes genrés avec un truc de gens qui sont allés dans l'espace. Mais
mes métiers, non.
Mes métiers.
Je vais jamais réussir à parler du film.
Pardon, je parle trop.
Non, c'est pas grave, c'est trop bien. Donc qui est allé dans l'espace, ce monsieur russe, et qui est venu à Ivry-sur-Seine inaugurer la cité de ce même nom. Donc en fait, le film commence avec des images de tous ces petits gamins de cette cité Gagarine, qui est une cité de logements sociaux. Donc c'est des classes populaires qui vivaient là-bas dans les années 60 comme en 2020, quoi. Et donc t'as Gagarine qui est là et qui plante un arbre, en fait, pour inaugurer cette cité. Ça commence là, c'est comme ça que la cité est née. Et en fait...
Dernière digression, t'es de Lyon ?
Ouais. Pourquoi tu dis ça avec l'air aussi déçu ? Moi aussi, je suis déçue d'être de Lyon, je voulais être née à Ivry, mais voilà, j'ai pas choisi.
Mais non, parce que tu dis ste. Ste cité. Et ça, c'est un truc de lyonnais.
Ah ouais.
Voilà.
Je dis cher aussi quand je suis un peu énervée, tu vois. Ah ben tu vois, ça m'a cher saoulée. Ça, c'est grave lyonnais.
J'adore. Si.
C'est bon, j'arrête
voyage,
de te
couper. Encore une fois. C'est fou, ce podcast.
Pardon, j'arrête de te couper, mais c'est juste, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu dis. Ah,
j'adore.
C'est passionnant.
Continue à analyser mon accent, Alex.
Bien sûr.
Je pensais que j'en avais pas, mais en fait, je suis lyonnaise, je peux pas le cacher. Donc, le film commence en 2017, il me semble, quelques années avant que la cité soit vouée à la déconstruction. En gros, enfin à la destruction. En fait, elle a été détruite pour de vrai dans la vraie vie, cette cité. Il y avait 380 familles qui y vivaient, qui ont été relogées. Et le film commence à ce moment-là, en fait, en mode, bon, bah, ok, les logements sont un peu insalubres, il y a de l'amiante, enfin, c'est un vieux truc qui a été construit dans les années 60, il faut partir, et il faut détruire ce truc-là pour construire autre chose derrière. Et donc, ça se focalise sur le personnage principal, qui s'appelle Yuri, comme l'astronaute Yuri Gagarin, du coup, qui est un ado de 17 ans, et qui vit un peu tout seul, en fait, sa mère est pas trop là. Au début, on sait pas trop pourquoi, je vais essayer de pas vous spoiler. Il vit un peu tout seul et en fait lui il a pas envie de partir, il a pas envie que la cité soit détruite. Du coup il se lance dans des espèces de petits travaux où en fait il essaye de tout réparer, donc il compte le nombre de néons qui marchent pas, il essaye de les remplacer, machin. Ça part de ce point de départ là qui est vachement concret et qui ressemble un peu à ce qui s'est passé dans la vraie vie, sauf qu'en fait le film il a pris le parti d'exploiter ce truc là qui se passe, donc la cité se fait détruire aussi dans ce film, enfin ça suit un peu la timeline de la réalité.
Ils ont pris enfin dans le film il y a les images, les vraies images de la cité qui se fait détruire
À la fin, ouais, okay. En fait le film a été tourné avant que la cité soit détruite, okay. Mais quand elle était déjà inhabitée, okay. Donc ils ont tourné dans un autre génial. Bâtiment d'Ivry qui ressemble c'est un ouf. Petit peu, et il y a des scènes qui sont tournées dans les bâtiments désaffectés, les vrais, et ensuite je crois qu'ils avaient terminé ils avaient terminé le tournage une fois que la cité a été détruite, okay. Et en fait, le film prend le parti d'explorer cette histoire-là, qui est en fait une histoire d'urbanisme un peu classique, quoi. Il y a des vieux bâtiments, voilà, c'est des logements sociaux qui ont été construits il y a 1000 ans, c'est crade, faut faire partir les gens, d'une manière qui est hyper onirique, en fait. Et en gros, à partir de ce truc-là où Yuri décide de réparer tout son truc, il y a un espèce de mouvement qui se met en place, où lui, il veut pas quitter la cité, même au moment où... les gens commencent à se barrer parce que il faut qu'ils soient relogés ailleurs ou qu'ils partent. Et lui, il décide de rester. Et en fait, au fur et à mesure de son aventure dans la cité, quoi, il y a aussi un espèce de fantasme que lui, il se crée autour du fait d'être astronaute ou cosmonaute ou spationaute, je ne sais pas, Alix.
Personne qui va dans l'espace.
Je ne sais pas non plus.
Et où, en gros, il y a toute une espèce d'imaginaire autour de l'espace, des étoiles, qui est montré de manière hyper belle. En fait, les décors du film sont hallucinants. C'est tourné, encore une fois, dans une cité désaffectée, quoi. Et en fait, c'est hyper beau. Il y a des couleurs de ouf. C'est hyper onirique. Il y a des moments où tu sais pas si t'es vraiment dans la réalité ou dans le rêve de cet ado, en fait. Et c'est montré d'une manière qui est hyper belle à la fois dans cet aspect-là où on parle de l'espace, des rêves, de la lune. Enfin, il y a des espèces de métaphores un peu filées qui se font tout au long du film autour de ça. Mais c'est aussi hyper beau parce que c'est un film qui parle de la réalité des humains qui habitent dans ces bâtiments-là, ouais. Tu vois. Et en fait, le...
Donc tu dois te faire pulvériser ta maison, quand même.
Bah ouais, tu dois partir.
Dans l'endroit où t'as créé tous tes souvenirs et tout.
C'est ça, sachant que les cités, les quartiers populaires, c'est des endroits qui sont vachement fantasmés par le cinéma français. C'est souvent représenté sous le prisme de la violence ou d'espèces de fantasmes bizarres parce que les gens qui écrivent ces films-là, c'est des gens qui sont probablement jamais allés et qui vivent, je sais pas, dans le 16e, enfin, ouais. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils comprennent pas trop ce qui se passe dans les quartiers populaires, quoi. Et là, en fait, ça raconte la réalité de cet événement-là d'une manière qui est hyper nuancée et hyper tendre, en fait. Et en gros, t'as vraiment l'aspect, bah ouais, non mais en fait, vivre dans des logements salubres, c'est pas cool. Il y a des gens qui ont envie de se barrer, les gens, ils ont envie de vivre ailleurs, ils vivent là parce qu'ils ont pas le choix, tu vois. Mais c'est pas pour ça que c'est pas des endroits qu'ils aiment, et des endroits où ils ont créé aussi une multitude de rapports humains et de rapports sociaux, affectifs, qui sont hyper cool, et qui sont nécessaires de manière générale. Quand t'es un être humain, c'est cool d'avoir des rapports sociaux cool, ouais, mais ouais, ça l'est cool. D'autant plus quand t'es une personne précaire, qui vit dans un quartier populaire et qui... vis aussi avec de la solidarité avec tes voisins, avec des rapports cool que t'as avec tous les gens de ton immeuble et tout, quoi. Et donc tout ça, c'est raconté avec une tendresse hallucinante. Et moi, j'avais jamais vu le cinéma français qui regardait un quartier populaire, une cité comme ça, avec de la tendresse, de l'amour, pas un espèce de truc où on exacerbe la violence en mode « Ah, regardez, dans les quartiers, y a des guns ou je sais pas quoi ». Et en plus, à travers le regard d'ados, qui pour le coup, pareil, ils sont pas caricaturés comme ils peuvent l'être parfois. Encore une fois, les ados des quartiers populaires dans le cinéma français, intramuros, parisien, c'est vite épuisant, quoi. Et là, en fait, t'as ce personnage principal donc, qui est joué par, j'ai dit son nom et je l'ai oublié, Alseni Batili.
C'est qui le réalisateur ?
Alors, c'est réalisé par deux personnes qui sont Fanny Liattard et Jérémy Trouille.
Je me souviens parce que j'avais fait un article sur leur court-métrage qui s'appelait « Chien bleu ».
Ah, je
ensemble
l'ai pas vu.
Avec Rod Parado et qui était très très cool aussi et je les aime beaucoup ils font des trucs très bien.
Bah ça c'était un peu ouf quoi. Et du coup voilà, t'as cet ado là qui est joué par Alseni Batili qui joue hyper bien, tout est hyper bien joué de manière générale dans ce film. Lina Koudry elle joue trop bien, enfin vraiment
ouais, on l'adore.
C'est ouf de voir à quel point c'est bien incarné et bien raconté. Et en fait cet ado bah c'est un gamin de 17 ans qui est vachement grand. Enfin, en fait, il a aussi été choisi pour ce rôle parce qu'il a une espèce de carrure de cosmonaute, quoi. Et qui pourtant garde un espèce de regard d'enfant. Et en fait, tout au long de ce truc qui dure, je pense que le film, il s'étale sur 2 ans, quoi. Donc, ils ont 17 ans quand ça commence, à peu près. Et en fait, ça parle aussi du passage à l'âge adulte, du fait de laisser derrière soi certains souvenirs.
Mais ils ont tourné il y a super longtemps, du coup.
Bah, en fait, truc de ouf avec ce film, et j'allais y venir aussi. Si ce film, il est aussi bien raconté, c'est parce qu'ils ont mis hyper longtemps à le faire. En fait, j'ai écouté des interviews de Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'eux, ils ont commencé à se dire « on va faire un documentaire sur cette cité qui va être démolie ». Ils sont arrivés en genre 2014, je crois, enfin 7 ans avant la sortie du film dans les salles. Et ils se sont dit « Ok, on va faire un documentaire ». Donc ils sont arrivés, ils ont recueilli les témoignages d'habitants de la cité qui vivaient encore à ce moment-là. Ils se sont intégrés à des assos qui étaient sur place. Ils ont fait des ateliers documentaires, je crois, au court-métrage avec les habitants de la ville. Enfin, ils ont vraiment appris à comprendre un peu ce qui s'y passait. Et en fait, au fur et à mesure de ce qu'ils ont appris et découvert sur place, des gens, du lieu et tout, ils se sont dit « Bon, on va pas faire de documentaire, on va faire de la fiction ». Et donc en fait, ils sont restés pratiquement 7 ans le truc, à documenter ce qui se passait, à comprendre les gens. Il y a plein de figurants dans le film qui sont des habitants de cette cité, en fait. Et à la fin, ils sont tous remerciés. Enfin, dans les crédits, tu vois 1 million de noms qui sont des gens, en fait, des habitants de la cité Gagarine, qui ont participé au truc, qui ont donné leurs souvenirs, qui ont expliqué pourquoi c'était un lieu qui leur tenait à cœur, en fait. Et donc, c'est raconté d'une manière qui est trop belle et... Enfin, c'est ouf, moi j'avais jamais entendu un film qui avait été fait pendant 7 ans en parlant avec les gens du lieu et en se disant bah, en fait il y avait une âme à cet endroit, on va la respecter et on va en faire quelque chose qui va être hyper beau, hyper onirique et qui va faire hommage en fait à cet endroit et aux gens qui y ont vécu en parlant d'un million d'autres trucs aussi parce qu'en fait c'est ça, c'est que c'est tellement bien raconté que même si toi c'est pas une expérience que t'as eue dans ta vie, tu vas te reconnaître quoi qu'il arrive dans ce film quoi, parce que tout est hyper doux, hyper juste, hyper tendre. Il y a, je pense, la plus belle scène de baiser que j'ai vue dans un film.
Ah
un
ouais.
Moment, t'as des personnes qui s'embrassent et c'est... Enfin, moi, j'ai pleuré, quoi. Devant deux personnes qui se roulent une pelle. Enfin, c'est random, tu vois. J'en vois dans la rue tous les 2 mètres, on s'en fout. Et en fait, c'est tellement bien amené, c'est tellement beau que... Juste, tu chiales, quoi. Il y a très peu de dialogues, mais tous les dialogues sont trop bien amenés et trop bien racontés. Bref, je vais pas continuer à en parler parce qu'après je vais pleurer et tout.
Mais tu te vends trop bien.
C'est incroyable.
J'y vais regarder ce soir là.
Mais vas-y, vas-y, ça va être trop beau.
Moi je voulais aller voir Conjuring, mais là du coup. Je vais peut-être aller voir Gargarine.
Ça a l'air ouf.
Ouais, ça a l'air vraiment incroyable.
C'est... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. La musique a été faite pour le film aussi. Pas toute la musique, mais il y a une partie de la bande-son qui a été composée pour le film et ça se ressent. Il y a des trucs trop beaux où tu te dis, mais c'est quoi ce truc ? Faut que je le cherche sur Spotify. En fait,
ça n'existe pas. Ah, la frustration.
Ouais, c'est mais je pense qu'en fait, c'est sur Spotify qu'ils ont dû les mettre quelque part.
Ouais,
exactement.
Bande originale.
La BO est
très belle. Bande organisée.
Ah oui.
Oh là là.
Non, on digresse sur bande organisée. J'adore Jul.
Moi aussi.
J'adore Jul aussi.
Bah, je suis fan de Jul.
J'ai vu une interview.
Attends, t'adores Jul, mais PNL, c'est trop.
Jul, je sais pas. En fait, je le trouve fondamentalement sympa. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime sa personnalité.
Ça sent la patate. Vous avez...
Non. Mais j'ai vu son interview, je crois que c'est chez Combini qu'il en a fait une il y a pas longtemps, où il raconte un peu ses inspirations et tout. Et Jul, c'est tellement quelqu'un qui a été snobé par tellement de gens, tu vois, parce qu'en fait, il est pas fort en orthographe. Et je suis là, mais... Qu'est-ce que c'est, du mépris de classe. Et bref, du coup, il passe complètement à côté du génie de ce gars que j'adore. Et il parlait de toutes ses inspirations et tout. Et j'étais là, franchement, c'est un génie.
C'est un génie.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Jul. Donc, et
je suis d'accord avec tout ce que t'as dit.
Et j'adore SCH aussi. Voilà, bon, bref.
Et j'adore Sosomanes.
Sosomanes.
Et on va tous les citer.
En bande organisée.
Personne ne peut nous canaliser.
Non,
la zone
de refuser. Non, ne me lance pas, s'il te plaît. Parce qu'après, c'est tout le podcast.
Après, on se met debout. Ce podcast va changer très vite. Parce qu'on va passer à Marseille.
Faire la fiesta.
J'adore. Mais merci beaucoup en tout cas, Aïda. C'est un trop beau kiff.
J'ai du mal à rebondir tellement c'est beau, tu vois. Genre,
t'as envie d'y aller.
T'as tout résumé et ça a l'air génial.
Alors, merci, j'espère que vous allez aller le voir. Allez-y, si vous n'aimez pas, bloquez-moi.
Mais oui, mais en fait, ça...
si vous n'aimez pas, bloquez-moi.
Non, parce qu'ils peuvent filmer.
Mimi Mathis back. C'est vibe de Mimi Mathis là, pas à ma gauche.
Et moi, je donne cours à des élèves dans un lycée à Ivry. Et du coup, ça se trouve, ils écoutent LMK.
Ça se trouve,
du coup,
tu leur donnes des cours de quoi ?
Des cours de Zumba, pas du tout. je donne des cours d'écriture journalistique, en gros. Effectivement, c'est une des rares communes qui est communiste encore aujourd'hui. Et du coup, ils sont hyper investis sur la culture. Moi, je travaille avec le théâtre public d'Ivry. Et c'est eux qui m'embauchent. Et en gros, ils ont l'occasion de voir des pièces de théâtre, de voir des expos d'art contemporain, etc.
Trop bien.
Et une fois qu'ils ont vu l'œuvre, peu importe ce qu'elle est, moi, je viens en cours avec eux et je leur explique, genre, ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire dessus, si vous deviez faire une critique, une vidéo.
C'est trop bien.
C'est trop cool.
C'est trop cool. Et surtout, ils sont trop marrants, ils sont trop mignons, ils ont 15 piges, donc c'est vraiment entre enfants et adultes. Moi, j'aime trop cet âge-là.
Moi, c'est mes préfs.
Je les déteste. Parce que vous en avez pas chez vous.
et du coup, c'est trop chouette. Ils voient des pièces sur Louise Michel et ils ont des caracs dessus et tout. C'est trop, trop bien. Et voilà. Donc, c'est le lycée. Et ça se trouve, ils écoutent LMK.
Et big up, dédicace.
C'est la grosse dame qui vient nous faire parler de Louise Michel. Et moi, je fais, c'est moi.
Louise Michel, j'adore qu'ils apprennent ça. Louise Michel, je ne l'ai pas découverte avant la prépa.
Ah non, mais nous, c'était pas dans le programme. Ça fait que 2-3 ans que c'est dans le programme des lycéens.
C'est
ouf. Histoire. Ouais.
Ouais, moi, j'en avais jamais entendu parler avant l'âge adulte.
Ouais. C'est ouf.
Et du coup, attends, il t'appelle madame ?
Et ouais, il m'appelle madame.
Ouais, c'est trop bizarre ça.
Ouais, et sauf que moi, j'ai trop l'impression d'être dans le coup. J'ai vraiment 11 piges de plus qu'eux. Donc,
It's over.
Pour eux, je suis là. Et la vieille là, elle essaie de faire des TikTok parce que je suis sur TikTok. Et du coup, ils disent hey, madame, je vous ai vu sur TikTok. Je fais yes. J'essaie trop d'être jeune avec eux. Et je suis là, bon alors les gars, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Ils
me regardent comme une pauvre merde.
Ça, c'est vraiment la pire partie de quand tu bosses avec des ados. Moi, ça m'est arrivé un peu d'être animatrice avec des ados ou de traîner avec des ados dans divers projets, quoi. Et toi, tu penses trop que t'es encore cool.
Traîner avec des ados, point.
Ça, moi, je le fais pas volontairement. Je le fais quand on me paye pour le faire. Mais ouais, c'est trop drôle, toi, tu penses trop que t'es encore jeune et tout. T'as l'impression qu'il n'y a pas tant de différence entre vous. Et t'es là, machin, alors Et eux, ils s'en battent les couilles de toi, tu vois. Ils sont là, mais en fait, t'es un vieux, t'es un dinosaure. Je sais pas qui c'est, Booba, tu vois. Et toi, t'es là, vas-y. Laissez-moi.
C'était Cobaladé
qui est allé dans l'émission
Rap jeu
ouais. Et qui a dit
c'est qui
Ayam.
Ouais, c'est ouais.
Il a dit c'est qui Ayam.
Sachez que l'expression trop d'art n'est plus employée.
Je suis pas étonnée.
Ah, déjà, c'est trop d'art, ça se dit plus.
Bah ouais, moi je l'utilise encore beaucoup, mais je me rends compte que déjà dans ma génération ça fait pas l'unanimité.
Ouais, oui, c'était il y a plutôt ouais, 5-6 ans, tu vois.
Voilà, mais moi je le dis encore, ah, trop d'art, mec, on se voit ce soir. Et voilà. Bah, est-ce qu'on passe le bac l'année prochaine? Non. T'as encore Snap? T'es bizarre. Et du coup, j'étais là, bah, trop d'art ton truc sur Louise Michel. De quoi tu me parles, madame?
J'adore.
Trop d'art de quoi?
Du coup, ils disent quoi? Oh là là, le podcast est devenu vieux en deux secondes.
Que font les jeunes, du coup?
C'est quoi les nouvelles expressions? Bah, regarde sur figaro.com, ils font un article tous les ans. Comprendre votre ado. Je deck.
Ils ont toujours 3 ans de retard.
Oh, c'est clair.
La moulaga.
Qu'est-ce que veut dire la moulaga? Moi, je l'ai vraiment tapé sur internet.
Allez.
Oh shit.
Ouais, bah ouais, j'écoutais du rap au bout d'un moment, j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas.
Mais elle est où? Elle est où, la
moulaga? La moulaga,
la grosse moula.
Ouais, oui, la grosse moula.
Elle est là, à la place de Marie Vrignot.
Oui, la moula. Je me permets de décourter ces digressions en tout genre, parce que ça fait 47 minutes et on a fait un kiff. T'as quoi?
J'ai un train à 18h.
À 18h? Non, mais ton train est à
18h. Non, je pars à 18h.
Ah oui, bah on a le temps.
Allez, 18h10.
C'est parti.
Bah, merci beaucoup, Aïda, pour ce kiff culturel et cinématographique. Et je pense que ça fait bien le lien avec le kiff de Marie, qui est aussi audiovisuel.
C'est un des grandes barres.
Yes. Alors, mon
kiff. Je t'ai bien introduite, non?
C'est parfait.
C'est dans le même style.
En termes de poésie, ça va être du même niveau. En termes de classe sociale, pareil. On va parler des Real Housewives de Beverly Hills.
Yes.
Faut savoir déjà que moi, de base, je suis fan de télé-réalité depuis 1000 ans. Je 26 ans, je suis encore tout ce qui se passe. Objectif First du Monde, qu'est-ce qui se passe, Julien Bert, Ilona. Bref, j'adore la télé-réal, mais ça, on est nombreux et nombreuses. Et les Real Housewives de Beverly Hills, faut savoir qu'il y a des Real Housewives de partout. Hein, oui. Et c'est un peu les origins, c'est les vrais.
C'est les OG.
C'est les OG, celles de Beverly Hills. Je me suis toujours interdit de regarder cette émission. Je me suis dit, si je commence... Je mets les doigts dans
la prise.
Et il y a 15 jours, j'ai commencé. Par la saison 3. Pas de sens.
Ah merde.
Sens.
Ça marche. Pourquoi tu t'es dit? Comment t'as fait?
Je vous explique. C'était sur Netflix. Il n'y a que la 3 et la 4.
Ah.
Faut savoir qu'il y a 10 saisons maintenant.
OK.
Ça fait 10 ans que ça existe. Et il n'y avait que la 3 et la 4. Donc j'ai commencé par la 3. Après, j'ai regardé la 4. Et maintenant, je suis à la 1.
OK.
À la saison 1. Vous dites quoi, un ami américain qui vous...
Ouais,
c'est un ami américain. C'est mon pote Jason qui me file les DVD.
Yes.
Alors attendez, je vais vous expliquer ce que c'est, parce qu'il y a peut-être des LM Crado qui ne savent pas. Mm-hmm. J'ai toutes les rêves, c'est incroyable. En gros, les Real Housewives de Beverly Hills, donc, c'est une télé-réalité qui suit la vie de femmes qui habitent à Beverly Hills, donc, l'endroit le plus cher et le plus, ce que tu veux, de Los Angeles.
C'est là où il y a toutes les stars.
C'est là où il y a toutes les stars.
Les meilleures
de droite.
Et c'est de droite.
Ah bah c'est très de droite. Hein. En tout cas, c'est très très riche. Et je pense que du coup, voilà.
Voilà. Ouais, de facto.
Tout est dit. Voilà. Et c'est des femmes qui sont toutes hyper riches, mais vraiment de manière indécente. Enfin, j'ai jamais vu autant d'argent de mes yeux, quoi. Donc du coup, ça t'emmène vraiment. Tu te dis, ça n'existe pas, ce monde, c'est pas possible. Et en fait, c'est pas forcément des housewives parce qu'il y en a qui sont des businesswomen, qui ont du métier, mais bon. On les voit quand même souvent dans leur mondanité, leur dîner entre elles, les dîners avec les events un peu. Voilà, donc on les voit pas forcément en train de bosser. C'est ça que je veux dire, quand c'est des housewives, mais pas vraiment, quoi. Il y en a certaines, c'est des femmes au foyer, d'autres non. Et donc on suit cette petite bande de femmes très riches. Alors il y en a des très 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 riches, et il y en a des un peu moins riches, mais quoi qu'il, c'est
riche.
Ouais, mais il y a quand même la compète, t'es toujours le moins riche de quelqu'un, quoi.
Ouais, mais par exemple, il y en a une qui, encore en 2021, est la businesswoman la plus payée du monde.
C'est vrai.
Qui s'appelle Adrienne Malouf. Et elle est que dans la saison 1, 2 et 3.
Wow.
Okay. Ouais. Et avec deux O, c'est pas comme le chanteur, enfin le trompettiste. C'est pas la même famille.
J'avais pas cette ref, mais merci.
Ibrahim Malouf.
Ibrahim.
Ah oui, ouais, putain.
Et Adrienne, une baraque, mais t'as jamais vu ça de ta vie, c'est pas possible. Et en fait, moi, ce que j'adore, faut savoir que je suis une fan de tout ce qui est kitsch au max. Et en fait, je me dis, tant d'argent, pour tellement de mauvais goût.
C'est-à-dire
qu'elles sont tout le temps dans des robes avec des fleurs, des boucles d'oreilles gigantesques, des ongles très très longs comme moi, des Adrienne Malouf, qui est donc la businesswoman la mieux payée de 2021 encore. Il y a 10 ans, elle porte des faux cheveux en plastique brillant dans ses cheveux.
Passion,
c'est-à-dire que
passion.
Mes passions, incroyable quoi.
Tu décris mon rêve là.
Et toute leur vie, c'est ça.
Moi aussi, je faisais ça quand j'étais petite. J'avais un serre-tête avec des petites mèches.
C'est ça.
Qui sortait, ouais, ouais. Et voilà, ça me faisait des mèches.
Mais c'était peut-être au même moment que cette personne la portait, parce que si c'était il y a 10 ans, t'étais petite peut-être.
Oui, c'est vrai.
Ouais, bah c'était il y a 10 ans.
Non, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à avoir du goût.
On est dans les années 2010, comme c'est le début de ça commence en 2010, tu vois, les Rihanna.
Ah bah j'étais pré-Adrienne Malouf, alors parce que moi
j'ai
porté ça, j'avais 6
ans. Mais elles sont un peu à la bourre, alors qu'elles sont censées être au max quoi.
Mais ça c'est l'Amérique aussi, j'ai l'impression. Enfin, désolée de chier sur les Américains, mais bon, c'est vrai qu'ils ont pas de goût. Enfin,
ils ont pas de goût, c'est clair.
Non mais on va pas faire de généralité, on va se prendre tous les Américains sur la gueule, mais c'est vrai que
surtout Jason il va être
Te file les DVD, enfin faut quand même continuer de te les
respect,
filer.
Respect,
man. Respect. Thank you so much for the DVDs. Non, mais enfin voilà, c'est vite too much en termes de.
Mais moi j'adore. Pour moi, ma vie est. Enfin, pour vous faire une petite description pour les LM Crado, là j'ai un pantalon avec des papillons blancs énormes, j'ai un tatouage papillon et mon portable, il y a des papillons sur ma coque d'iPhone.
Ouais.
Par exemple, un peu too much. C'est un peu too much, mais elles sont au max du too much et j'aime trop quoi. Genre vraiment, ça me fascine et genre les baraques qui sont toutes dorées, qui sont gigantesques. Et ce qui est ouf, je me suis fait happer hein, dans cette, dans cette télé-réalité. Et ce qui est incroyable, c'est que parfois, tu vas avoir un épisode entier, parce que c'est hyper bien monté. Un simple haussement de sourcil.
Ah oui.
C'est genre, pam, 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 pam. Elle a haussé les sourcils.
Il te le repasse 20 fois, tu sais, genre.
Ok, elle a dit ça, this is so rude, quoi.
Et là, elle a soulevé ses sourcils. Quand j'ai soulevé mes sourcils, non mais là, j'ai vu qu'elle avait soulevé ses sourcils et que l'autre l'avait regardé soulever ses sourcils. J'adore la télé-réalité.
Mais c'est vraiment ça. Et parfois, t'as un épisode entier, c'est juste une meuf qui a pas servi de l'eau à une autre. Enfin, un truc pété, quoi.
Un drama, quoi.
Et c'est un drama. Et l'épisode d'après, c'est des trucs horribles. Où il y en a une qui est alcoolique et tout le monde essaye de lui dire et on la voit dans la pire situation de sa vie. Et je me dis, mais... Waouh, genre vraiment, y a plus d'intimité dans cette émission. Il y a plus de limite à ce qu'on partage ou pas. Et je trouve ça assez brillamment fait et en même temps c'est dérangeant parce que tu te dis mais c'est pas possible, c'est tu peux pas acheter des voitures comme ça comme si c'était des baguettes.
Mais c'est vrai, c'est horrible.
C'est de l'indécence,
c'est plaisir à regarder.
Et puis elles sont quand même un peu marrantes. Et puis c'est très ricain quoi. Ouais. Il y en a une qui est british, du coup elle est un peu marrante, mais en fait elle choque tout le monde tout le temps. Et t'es là, mais les gars, faites un effort quand même. Si vous comprenez pas le second degré pendant 8 secondes, vous allez pas vous en sortir dans cette émission. c'est très très ricain.
Et tu regardes ça à quel moment tous les moments.
Alors étant au chômage, ça peut être à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Non, je regarde, oui, c'est ça, c'est quand je mange, quand je vais me coucher. Je
C'est ton petit rituel.
Ah, mais là, j'enchaîne. Mais j'ai regardé quasi 3 saisons en 2 semaines, quoi.
Mais t'arrives à dormir quand tu regardes ça avant d'aller te coucher? Parce que moi, je sais que bah,
ça
me donne
envie
de la nuit, quoi.
Ah, oui, c'est ça.
Et souvent, je m'endors devant. Voilà, parce que ma petite routine, c'est que moi, je mets toujours un truc qui fait du bruit
night
quand je dors.
Mm-hmm.
Et c'est typiquement des vidéos genre les Real Housewives. Donc, je fais, non, mais attends, je me réveille, je fais, oh, qu'est-ce qui s'est passé? j'ai pas vu l'embrouille autour du vin, là.
Vas-y, remets.
J'avoue. Génial. Mais moi, je me suis, pareil, toujours interdit de tomber là-dedans. Je sais qu'un jour, je le ferai. Je le sais, parce que j'ai regardé Objectif Reste du Monde, je regarde les Marseillais, je regarde, tu vois. Donc je sais qu'un jour, il va falloir que je m'y mette. Et en plus, il paraît qu'il y a un moment, une sacrée tragédie,
au
niveau d'un mec qui tabasse sa meuf, non?
Ouais, ça c'est dans les premières saisons.
Ouais.
Ouais. C'est Taylor. Taylor, c'est le même hyper connu de la nana qui crie sur un chat.
Sur un chat, oui.
Et bah c'est cette femme-là. Et du coup, elle en parle, effectivement, elle en parle dans les premières saisons parce qu'elle va le quitter. Là, dans la saison 1, elle est avec. Mm-hmm. Et donc, j'ai pas la suite. Faut savoir qu'il y a 10 saisons, il y a des moments où il y a des procès entre elles et tout. Hein. Donc, c'est-à-dire que vraiment, j'ai rien vu pour l'instant.
Okay.
Je suis vraiment au début. Et je sais très bien qu'une fois que j'aurai fini Beverly Hills, je vais aller regarder Miami, je vais aller regarder New York, je vais aller regarder les autres Real Housewives, quoi.
Moi, j'ai regardé le début d'Atlanta. Et c'était assez incroyable aussi, les embrouilles et tout. Ouais. Et les baraques de ouf, enfin...
Les baraques.
Voilà. J'ai passé 3 très bons épisodes et après...
La vie.
J'ai trouvé un travail. Comme souvent, choisir, hein. Ça
donc
m'a interrompu.
C'est pour les LM Crado au chômage. Et n'oubliez pas de vous actualiser.
Mais c'est ouf. Mais tu crois que c'est vraiment la réalité? C'est-à-dire qu'ils exagèrent un peu quand même.
Bah, tout est exagéré quand tu t'embrouilles pour savoir si, oui ou non, un tel ou une telle a pris le magazine à 15h30 où il y avait le scandale sur... Je dirais, elle s'embrouille sur des trucs, tu te dis, c'est pas possible, ouais. Vous êtes en maternelle, quoi. Mmh. Vous êtes vraiment en train de dire, non mais, t'as dit ça, non j'ai pas dit ça, qui on doit croire, on sait jamais. Bah, ouais. On sait jamais, parce qu'elles se contredisent tout le temps. Et donc, je pense qu'elles exagèrent. Déjà, en fait, leur amitié de base, c'est pas ça. Vraiment.
Ouais, c'est, tout est basé en plus sur du vide quand même.
Ouais, c'est vide de fou. Enfin, elles sont pas vraiment potes. Elles ont un business ensemble, quoi. Mmh. C'est le business, c'est de faire ça.
Mais tu sais que ça me fait penser aux dames dans la cour des rois, tu sais. Qui avait
comment les courtisanes
de quoi elle parle
non pas les courtisanes mais les meufs tu sais qui avaient des embrouilles là-dessus tu vois parce qu'en fait bah elles avaient un peu pas rien à faire tu vois mais genre elles s'embrouillaient sur des trucs un peu chelous tu vois
mais je pense que quand t'es riche t'embrouilles que là-dessus parce que t'as pas d'autres problèmes tu vois.
Ouais, et puis quand t'es riche, bah, si t'as
après
peur...
tu vois, on parle quand même. Il
y a une meuf qui s'est fait tabasser,
qui a été victime de violence. Il y en a une autre qui, du coup, a eu des problèmes d'alcoolisme, et donc tu vois tout son moment où elle s'en sort et tout. Elles ont toutes des gamins, et en fait, c'est aussi ça qui est beau, je trouve. Oh là là, je vais aller trouver de la beauté dans cette émission.
Bah oui, non, mais
par exemple, elles sont toutes
mères,
parce que sinon, elles ont toutes des enfants, je crois. Et pour le coup, quand tu les vois avec, bon, non, je vais mitiger mon propos. Parfois, tu les vois avec les petits-enfants et tout, c'est mignon. Parfois, tu dis... par exemple, il y a Yolanda, qui est la mère de Gigi et Bella Hadid.
Ah,
ils sont costauds.
Ouais. Il y a aussi les deux tantes de Paris Hilton. Enfin, bon, bref, c'est un peu quand même business, Rosta, tout ça. Ouais. Et donc, Yolanda, qui est une des Real Housewives à partir de la saison 3. tu les vois avec Gigi et Bella, tu dis...
Ah, mais elles sont dedans, elles aussi.
Ah bah ouais, on les voit un petit peu. On voit souvent leurs enfants un petit peu.
Okay.
C'est ouf. Et elles sont ados, elles ont 18 ans, quoi, 17-18 ans. Et tu te dis, va falloir arrêter de foutre des troubles du comportement alimentaire à tes gosses.
Oui.
Parce que là, tu... Elle est une ancienne mannequin. Et coup... Mais Yolanda, elle a des commentaires. Tu fais, oh là 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 là. Et bah, heureusement que... Heureusement que maintenant, DJ et Bella sont plus connus qu'elles. Et qu'elles
sont
blindées.
Ouais, mais bon, elles doivent partir sur des bases... compliqué.
Ouais, c'est un peu complexe. Ouais. Et petite anecdote pour terminer mon kiff.
Eh, vas-y.
Yolanda, justement, elle a planté dans sa baraque de ouf et son jardin de ouf 50 citronniers et elle savait pas que les citronniers, ça faisait beaucoup de citrons. Du coup, en fait, dans tous les plans, on la voit avec des citrons.
C'est énorme.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fait à bouffer pour quelqu'un, elle fait un sandwich, elle met des rondelles de citron à côté.
Ah ouais, des barres.
J'adore.
Elle fait des citronnades, mais tout le temps. Quand elle est le beau plan là où elle débriefe de leur journée et tout, elle a des citrons derrière. Elle débarque chez les gens avec des sacs de citrons et ça.
C'est énorme.
C'est hyper bien comme running gag, genre.
Ça fait trop rire. Je savais pas que les citronniers ça faisait plein de citrons. Du coup, j'en donne à tout le monde.
La meuf, elle va être trop saoulée, t'imagines. Toute ta vie, t'as 100 citrons.
Tu peux en mettre partout, quoi. Ça
tous les jours.
Ouais, à toutes les sauces.
J'adore.
Incroyable.
En parlant de gens ultra riches, ça aurait pu être mon kiff, mais.
Je cherche un sugar daddy.
Ouais. Oui, aussi. Mais non, pas du tout. Je regarde en ce moment beaucoup de vidéos de Heidi. Vous connaissez ou pas?
Pas du tout.
C'est écrit comment?
Architectural Digest. Vous connaissez pas? En fait, vous connaissez les 73 questions de Vogue?
Oui. Ouais.
Où ils vont chez les gens et ils leur posent 73 questions. Bah, Heidi, c'est un petit peu la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais ils vont chez les gens très riches et voir leur maison.
C'est incroyable.
C'est ma
moi, j'en ai regardé des millions de vidéos comme ça.
J'adore.
Et après, je regarde mon appart.
En Île-de-France. Moi, ça me vénère.
Pourquoi ça te vénère? Moi,
ça me fait chier, quoi. Genre,
moi, je me projette.
Quoi.
Ouais, c'est indécent. Ouais, moi je me projette, mais là je suis là, genre, frère, il y a quand même du chemin.
Bah, en fait, moi ce qui me fait un peu de peine souvent, et alors je pense à un concept de vidéo, vous allez me dire si c'est bien. Mm-hmm. Je le dis dans LMK, donc comme d'habitude, le concept va m'être volé et quelqu'un va le faire dans 2 semaines vraiment, donc ça me casse les couilles, mais bon, bref, je le dis. J'aimerais bien faire un truc, donc ça s'appelle Architectural Digest, et j'aimerais bien faire un truc français, digère cette architecture, et ce serait, on va chez des gens pauvres, et enfin pauvres. des gens normaux, tu vois, qui n'ont pas la richesse de, je sais pas, Cara Delevingne, tu vois, qui a 4 maisons. Et donc, on va chez eux, et c'est encore un peu en bordel et tout, et ils nous présentent leur maison. Et c'est la même chose, tu vois. Parce que je me dis, moi, je pourrais faire un épisode de ça dans ma maison où tout est mis de façon à être, tu sais, t'es calé dans chaque endroit. Tu sais, c'est pratique. Bah oui.
Optimiser quoi.
Et donc voilà, ça ferait pas rêver, mais ça donnerait des bonnes idées.
C'est vrai.
Voilà, et ça, voilà, ça permet de rentrer chez les gens, et ce que les gens adorent. Parce que dans Architectural Digest, ce que je trouve un peu triste, c'est que souvent, le ménage est fait à fond chez les gens. Donc il n'y a aucun truc qui dépasse, c'est hyper froid. En plus, quand ils parlent, ça résonne.
C'est ce que j'allais dire. Oui. Moi, je les envie pas parce que ça résonne chez eux. C'est
mais ouais, ça résonne.
Après, ça dépend des endroits ou des gens chez qui ils vont filmer. Parce que moi, les quelques vidéos que j'ai vues comme ça, c'était plutôt des gens qui habitaient sur la côte est vers New York, tu vois, genre des
espèces de. Ah oui, mais t'as vu les trucs de Brooklyn. T'as vu chez Maggie Gyllenhaal ou pas?
Non, j'ai pas vu.
Avec Peter Sarsgaard, ils habitent ensemble et c'est trop bien. Ou le loft de Vanessa Carlton, enfin bon, bref. Mais à New York, c'est trop beau. Mais après, j'avoue,
coup,
à Los Angeles,
surface, ouais, c'est ça. C'est pas la côte ouest où c'est en mode Beverly Hills, Real Housewives, avec des baraques de bâtards.
Où elles doivent s'appeler de pièce en pièce, parce qu'ils peuvent pas se dire...
Trois piscines, tu fais tout en caisse et tout. Enfin, ça me déprime.
Ouais, puis surtout, tu sais, le ménage, genre, waouh.
Ouais, mais ils ont l'argent pour que les gens y passent.
Mais ouais, mais flemme d'avoir des gens chez WAM tout le temps, tu vois. Flemme.
Quand t'es riche, je pense que tu prends ce problème.
Puis parce les baraques, elles sont tellement grandes, ils se croisent pas. Ils sont dans l'aile gauche de ta maison pendant que toi, tu fais à manger dans l'aile droite. Et ensuite, quand tu sors, ils viennent.
Non, mais t'es jamais chez toi. Je sais pas.
Je pense qu'on s'habitue vite quand même à l'espace. Hein. Quand elles font des garden parties et tout, je suis ça a l'air sympathique. Ah, ouais. Pouvoir inviter 200 personnes comme ça. Hop là. Il y a tout le monde qui débarque. Tout le monde habite à côté de chez toi en plus.
J'ai pas 200 amis, du coup, ça va.
Bah, elles non plus, hein. Mais il y a quand même 200 personnes qui viennent.
Elles ont pas d'amis, de toute façon.
Oui, voilà. Ouais. Ah, elles ont quelques-uns quand même.
Elles n'ont pas des vrais amis, je veux dire, elle a des connaissances, quoi.
Ouais, c'est beaucoup de.
De Mathieu.
C'est beaucoup du réseau. Ouais, mais comme dit Lisa Vanderpump, elle dit Beverly Hills, c'est about who you know and I know everybody. Oh,
le truc que j'adore.
Elle, c'est là, c'est ma préférée.
Je déteste les gens comme ça.
Ah, bah, tu détesterais toutes parce qu'elles sont toutes comme ça.
Moi, tu vois, genre, j'ai regardé Selling Sunset. C'est le truc que j'aime bien, mais. Parce que je trouve qu'il y a quand même un côté bise, tu vois, c'est intéressant, j'aime bien voir comment est-ce qu'elles vendent les maisons et tout.
Le côté bise intéresse Marie.
Et c'est un peu ridicule, étonnant. Mais j'aime pas le côté trop vraiment people, meufs qui ont de l'argent, qui montrent et tout. J'aime pas les gens qui étalent, tu vois. Genre, donc...
T'aimes pas Christine dans Selling Sunset?
Je déteste Christine.
J'adore Christine.
Bon, après, c'est. Putain, comment elle s'appelle celle qui a un enfant.
Chrishell. Ah non, Amanda.
Yes, Amanda. J'adore.
La meuf, elle savait pas choisir entre Amanda et je sais pas quoi, Liza, tu vois. Amanda.
Je l'aime bien, elle.
Ce sont toujours des prénoms incroyables. Chrishell, Christine, Amanda et...
Comment elle s'appelle l'autre?
Ah non, Murray.
Murray.
Ouais, voilà.
Un classique. Voilà. Une de plus.
Une de modèle. Big up à elle.
Bah, merci beaucoup, Marie, du coup, pour ce super kiff. Et non, faut pas que je succombe.
Tombe pas là-dedans.
Pas que je succombe.
T'as d'autres projets bien.
J'ai d'autres projets.
Ouais. Exactement.
Merci, Marie. Merci.
D'ailleurs, c'est notre. Non.
Non. C'est de droite, c'est de droite.
Il est trop tôt.
Oui.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Autre Marie.
C'est à moi.
Miss Moulaga, oui. What is your kiff?
Alors mon kiff, c'est de la bouffe.
Ouais,
on adore la bouffe. Et c'est plus particulièrement une application de livraison de bouffe.
Ça, génial.
Éthique.
Oui,
Éthique. Il s'appelle Éthique, tu connais?
Ouais.
Ah, trop bien. Bah, je suis tombée dessus par hasard. Donc ça s'appelle Éthique, E-A-T-I-C, comme it et éthique. Voilà.
Oh my
la compréhension des deux mots. Et en gros, je me faisais la réflexion il y a quelques semaines et j'en avais vite fait parler quand j'avais fait un kiff sur Oli Belli. Oli Belli, qui est un restaurant parisien que je kiffe, qui avait mis en place un système de livraison qui n'était pas celui des grosses multinationales qu'on connaît, parce qu'ils avaient envie de vraiment trouver un système qui était déjà de proximité, qui était plus intéressant pour les gens qui y travaillent, donc les livreurs, etc. Et donc du coup, ça m'avait un petit peu interrogée. Et surtout, je me suis aussi fait la réflexion que sur les applications de livraison un peu mainstream, je galère à trouver en général des plats végétariens qui me font vraiment kiffer. En fait, en gros, je dois aller dans chaque menu de chaque restaurateur pour trouver le plat veggie, tu vois. Et là, sur cette application, c'est que du veggie. Donc en fait, tu ouvres l'application et tu as que du veggie ou même du vegan. Donc ça multiplie de ouf les choix. Moi qui suis végétarienne depuis maintenant presque 2 ans, et en gros c'est que des trucs en plus trop bons, trop stylés. C'est pas le veggie, tu vois, genre des patates et des carottes, tu vois, c'est vraiment des trucs trop stylés.
Bah alors Aïda,
des patates et les carottes,
c'était too much. Et donc ils ont trop plein d'adresses parisiennes trop stylé. Donc ils sont à Paris, à Lyon et à Lille pour l'instant. Donc c'est pas encore partout en France, mais j'ai l'impression que ça se développe de ouf. Et en gros, donc à part le fait que ce soit 100% veggie ou vegan, ils reversent 10% à des associations tous les mois en fait de leur chiffre d'affaires. Donc c'est trop cool. En plus, il y a une démarche responsable. Ils sélectionnent les restaurateurs qui sont dans le service de livraison selon plusieurs critères d'éligibilité par rapport en fait aux produits qu'ils proposent, de saison, de proximité et évidemment de pas mal de facteurs comme ça. Et je trouve ça cool d'avoir une alternative. Petit bémol, c'est que forcément c'est plus cher que n'importe quel service de livraison, bah parce que en fait il y a un minimum de livraison déjà. Donc en fait, si tu commandes pas à plus de 25 balles,
mais normal en même temps, enfin tu vois, si on réfléchit un peu au concept,
Tout c'est que c'est forcément un sacrifice à faire. Donc donc moi je l'ai testé par exemple quand on avait envie de commander avec mon mec à manger toute seule. C'est un peu limite parce que je peux pas me faire une commande à 25 balles toute seule. J'en serais capable.
Il y a des jours on est un peu plus triste que d'autres.
Ouais, c'est ça.
Un petit jus
je vais les prendre, les muffins. Veggie ou pas?
Exactement. Et donc ils ont plein d'adresses parisiennes que j'aime trop, et je vais juste en citer quelques-unes parce que c'est un peu mes coups de cœur. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est des restaurateurs qui sont sur cette application et qui sont pas sur les autres applications mainstream. Donc typiquement, il y a Bone Shaker, qui est une adresse de donuts.
Miam miam miam.
Qui vraiment génialissime.
C'était cette onomatopée.
Miam miam miam. C'est la meilleure adresse. Miam miam miam, c'est du miam énervé, tu vois.
Miam miam. Il y a aussi Sol Semilla, qui est une super adresse de producteurs locaux dans le 10e qui proposent plein de plats de saison, trop bons, trop gourmands, trop généreux et tout, et très colorés. Il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Fouraa Burger, qui est vraiment génialissime. C'est des dupes du McDo,
ouais,
en vegan et végé, évidemment. Et c'est délicieux.
Quoi ? Mais miam.
Mais il faut savoir que j'ai un de mes potes, c'est un viandard de ouf, ouais, et on est un peu tous végés dans le groupe, sauf lui, il s'en fout, ça le saoule quand on lui dit « Ah, oh, mais Loulou, t'es obligé de prendre de la viande à chaque fois ?» Et oui, il y a ma viande pour mes muscles, pas du tout. Mais en tout cas, il aime trop la viande, et bah parfois, il demande à aller à ce resto-là. Wow. Genre, il a vraiment trop kiffé, quoi.
J'ai trop envie.
Ah ouais,
et bah, c'est juste à côté.
J'ai faim, là.
Et du coup, il faut vraiment genre le cheeseburger ou le Big Mac, mais vraiment, c'est McDo, quoi. C'est impressionnant. Et c'est très bon. Ensuite, il y a aussi Aujourd'hui Demain, qui est une super adresse de coffee shop, petit gâteau, pâtisserie à parisienne, trop bien.
Mais à chaque fois, je vois Autre Marie. Je te vois acquiescer, tu les connais toutes en fait, les adresses vegan.
Écoute, juste c'était vegan, je suis végé depuis 6-7 ans maintenant, 6
donc
ans.
Donc tu connais tout.
Donc, mais après, j'ai pas forcément été partout, juste connais deux noms. Genre Aujourd'hui Demain, je connais deux noms, mais j'ai jamais été.
Ok,
c'est très bien. Et il y a aussi Cheezers, qui est une adresse de grilled cheese vegan.
Miam miam.
C'est trop bon, voilà aussi. Et puis les tétons, les tontons veg.
Les tétons veg.
Non, les tontons veg. Voilà.
Ok.
Et du coup, bah voilà, je suis trop contente parce que déjà c'est une alternative à d'autres applications qui me saoulent. Enfin, déjà je les déteste en général ces applications-là.
Mais c'est bien, ok.
Enfin, je suis un peu saoulée et tout, et en même temps, je suis quand même coincée dans le système, tu vois. Parfois, j'ai la flemme de me faire à manger, donc j'ai envie de commander. Et là, c'est une alternative que je trouve du coup assez efficace, parce que du coup, je l'ai testée. Et même s'il y a encore quelques bugs, c'est une application qui a même pas 2 ans, je crois, et qui est pas non plus très connue pour le moment. L'interface est pas non plus encore ultra fluide, mais en vrai, je trouve ça trop cool et il faut les encourager, donc c'est trop bien. Et surtout, le plaisir d'en fait d'ouvrir un menu, en fait, t'as du choix du coup dans toutes les options, puisque tout est végé. Et en tout cas, pour moi, je kiffe, quoi.
Trop bien.
Donc voilà.
Mais merci d'en parler à tous les LM Crado qui vont se ruer dessus et qui du coup vont faire que
l'appli va exploser. Si vous habitez pas du coup à Paris, à Lille.
Voilà. Est-ce qu'il livre extramuros ou est-ce que c'est que intramuros pour l'instant?
Je crois qu'il livre pas mal extramuros aussi. Hein.
Yes.
Faudrait confirmer, mais
région parisienne.
Ouais, région parisienne, franchement à fond. Et vraiment, il y a beaucoup d'adresses en fait. J'avais peur que il propose 4 restos par zone, quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment genre 20-30 adresses par quartier, quoi. Donc voilà, très bonne alternative, très bon manger végé, ça
j'ai trop faim.
En plus, ça fait découvrir des endroits que tu connaîtrais peut-être pas forcément où tu t'arrêterais pas en passant à pied, quoi.
Exactement,
donc c'est
clair, c'est clair. Et après, quand t'es satisfait, tu vas manger dans le restaurant.
C'est un goût de revient.
C'est la fidélité cliente, quoi.
Exactement.
Voilà, tout à fait.
Donc voilà, et franchement, petite parenthèse, alors, je ne suis pas là pour faire ma propagande et tout, mais vraiment, devenir végétarienne, ça a été vraiment un des meilleurs choix de ma vie, sincèrement. Je suis trop heureuse tout le temps, à chaque fois que je mange quelque chose du coup, qui n'est pas de la viande. Vraiment, c'est si facile. En plus, à Paris, franchement, c'est facile. Et je suis tellement heureuse. Voilà, c'est une des meilleures décisions de ma vie, je voulais vous le dire.
C'est ton kiff ?
C'est mon kiff d'être végétarienne. Et du coup, d'avoir des solutions qui fleurissent de partout, même si à Paris, on est ultra chanceux. Il y a vraiment du choix dans tous les restaurants.
Oui, il faut avoir un petit peu de thunes, parce que moi, j'ai commencé à être végétarienne en 2016.
Ah oui.
Donc, j'étais étudiante. J'étais à Lille et à Rouen.
Ouais, c'est plus difficile.
Être végé, pour aller au resto peut-être.
Ouais,
mais t'as aucune adresse. Au quotidien, par contre, c'est
moins. Bah ouais, les légumes, c'est moins cher. C'est vrai que
c'est vraiment moins cher.
Ah oui, c'est moins cher.
Plus cher quoi.
Ouais. Mais en fait, moi qui étais pas. Je cuisinais pas bien. Mm. Bah en fait, je bouffais des trucs, j'étais là.
Pâte au pesto.
Ouais, voilà.
Pâte au pesto, ouais. J'avoue, le petit repas de flemme, il passe bien. Hein. Pâte au pesto.
Mais ouais, enfin, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se développent de ouf. Et enfin, même. Dans tous les restos, en fait, t'as une alternative.
Ouais, ils sont obligés de s'y mettre maintenant. Ouais, il y a des alternatives tout le temps, quoi.
Bah, alors, petite parenthèse, j'ai été le week-end dernier dans un hôtel trop stylé avec mon mec pour nos 4 ans.
J'ai vu.
On s'est fait un kiff, voilà. On a
ça m'a saoulé.
C'était cyclable sur les stories.
Voilà, ça m'a saoulé. En même temps, j'étais là, qu'est-ce que je les aime.
Bah, tu vois, genre, j'étais étonnée parce que donc, c'était à Versailles, ce qui est quand même proche de Paris. Restaurant chico, c'est tout. Pas de plat végé. Ah bah enfin, on a dû demander de faire un plat sur mesure qui était en fait.
Ah ouais?
Parce que Versailles de droite.
Mais c'est dommage, je suis là, genre, frère, il y a des gens qui ont de la thune qui sont végés, tu vois. Mm. Ils loupent des opportunités.
Ouais, et puis c'est ouf qu'il n'y en ait pas un seul. Enfin, il y a forcément un plat que tu fais dans lequel il n'y a pas de viande ou de poisson, quoi.
Exactement.
Mais surtout que oui, c'est déjà de base, tu vas dans une pizzeria, n'importe laquelle, la 4 fromages, c'est bon, régalade. À partir du moment où tu manges du fromage, en vrai, il y a vraiment beaucoup.
Vegan, j'avoue, je passerai pas le cap, je pense. Parce que j'aime vraiment trop le beurre. Le fromage ça va.
J'ai été
vraiment une vraie bretonne.
Ouais. J'ai été végane et c'est vrai que pour le coup pour le resto si tu sais pas à l'avance que tu vas pouvoir genre soit t'es la cliente trop qui fait alors je voudrais la salade de chèvre mais sans le chèvre qu'est-ce qu'on me fait et du coup c'est un peu galère et tu termines beaucoup à bouffer des assiettes de frites mais après encore une fois quand t'es dans une grande ville il y a plein de restos qui font des trucs végane mais voilà il faut que tous les copains soient d'accord pour aller à telle heure à tel endroit.
En parlant de bouffe, rien à voir. Juste en parlant de bouffe, j'ai oublié de raconter une anecdote qui m'est arrivée hier soir.
Incroyable.
Bah, mais vas-y, je vais embrayer avec mon kiff.
Vas-y, c'est parfait.
Merci Marie pour ton kiff. Et c'était kiff. Super. Maintenant,
je vais télécharger la vidéo.
Allez, on laisse le monopole.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
En fait, hier soir, je suis allée au resto après mon kiff. Et avec mon amie, on a commandé des burgers. Et là, elle était en train de me. Enfin, non, j'étais en train de lui parler d'une histoire de gars. Vraiment un fils de chien, tu vois. Et donc je la regardais pas, tu vois, j'étais en train de bouffer parce qu'on mangeait l'une à côté de l'autre et je lui racontais le truc et tout, elle était là. Et j'étais là, ouais, t'as vu, il dégoûte et tout. Elle me fait non, il y a une chenille dans mon burger.
Oh no.
Et là, une chenille verte sort du burger comme ça.
C'est
chaud.
On a regardé, on était là. C'est quel restaurant ? On n'y est pas ?
C'est un restaurant à côté des quais de Saint-Michel. C'est genre l'enfer de tous les restos là, tu sais, qu'il y a là-bas, tous les restos de touristes.
Une chenille ou un verre ?
Une chenille.
Ah ouais, c'est
une chenille, tu sais, papillon, quoi.
Ouais, mais toute verte.
Camille, la chenille,
exactement.
Se déplie. Je l'ai fait pour
le guide.
Pour l'image.
Guide.
Mais c'était une chenille verte fluo et qui est sortie de.
C'est dégueulasse.
Il était là, t'imagines, je l'aurais mangé. Et du coup, les gars ont repris l'assiette. Ils lui ont servi un nouveau burger. Ils l'ont fait payer alors qu'elle a pas pu bouffer, tu vois. Genre, elle était là. En vrai, j'ai plus faim. La vérité, je veux plus manger un truc. Moi, j'ai tout mangé, bien sûr. J'ai trop faim. Mais même si ça m'a un petit peu dégoûté, moi, je suis capable de manger à travers le dégoût. Enfin, vraiment, rien ne m'arrête, vraiment. Bref, je vais pas. Non. J'allais dire à part peut-être, mais je vais pas te dire ce qui m'arrête.
Non, ça va. On n'est pas non plus là pour parler de tes besoins.
Voilà.
Primaire.
Mais du coup, moi ça m'a pas arrêté, mais elle a même pas bouffé, ils l'ont pas remboursé. Genre, ça se
horrible.
Fait trop pas.
Elle a vraiment payé, elle a pas fait un scandale.
C'est pas une meuf du scandale.
Retourne une table.
C'est pas une meuf du scandale.
Moi, je suis trop polie. Hein. C'est-à-dire que moi, on me sert un truc, c'est pas ce que j'ai commandé, je vais le manger quand même.
Bah ouais.
Mais par contre, dès qu'on parle d'argent.
Ouais, de ouf.
Et de chenilles.
Oh là là.
Alors là, j'aurais fait, non, mais les gars,
c'est
chose. Un geste commercial.
Mais non, mais c'est vrai. Ouais. Je me suis dit, ils auraient pu au moins
lui dire bah vous payez que la moitié ou j'en sais rien.
Bah
tu
oui,
vois,
mais Régis tourne, t'offres un truc, enfin, ouais, tu vois, tu fais un geste quoi qu'il arrive.
Ah, attendez, j'ai pas compris. Elle a payé deux burgers ou un ?
Un.
Quand même.
Celui qu'elle a mangé,
alors
quoi.
Non, j'aurais payé aussi. Ah, ah non, je pensais qu'il lui avait facturé les deux.
Non.
Il avait servi, il dit, bah écoute, ça fait 28 balles. Hein,
non.
Waouh, quand même. Ah ok, non, ouais, j'aurais payé comme une bicose.
Mais ouais, mais c'est ce, que, dit, c'est ce qu'elle a fait, tu vois.
Ah, oui.
Mais après, bon, le serveur lui a mal rendu la monnaie, du coup, elle a gagné un peu de thunes. J'ai dit, ouais, vas-y, t'as gagné 90 centimes, c'est bien.
La baguette demain, elle va régaler.
Ça va régaler.
Le loyer va être payé. Yes.
N'allez jamais manger au resto à Saint-Michel.
Non, voilà, n'allez jamais parce qu'il y a des chenilles.
Toi, mais... c'est fou parce que, pardon.
Vas-y.
C'est une digression qui n'a encore rien à voir. Hier soir, au même moment, probablement, j'étais sur TikTok parce que j'ai installé TikTok et je commence à comprendre comment ça marche.
Tu peux aller suivre Marie.
Exactement, je vais le faire, je vais liker. et je suis tombée sur des vidéos de lémuriens qui se défoncent en mangeant des chenilles. Et en fait, il y a un truc
c'est
toxique dans les chenilles de chez eux. Qui les rend un peu bourrés, quoi. Et du coup, ils arrêtent pas de bouffer des chenilles. Et ensuite, ils sont tout def et tout. Ils ont la tête qui tourne. Et c'est un ouais, man, tu vois.
J'adore.
Donc, j'ai passé vraiment 45 minutes à regarder des lémuriens qui mangeaient des chenilles pour être def, quoi.
Il faut savoir que la pote d'Alix est un lémurien.
Et tout à fait.
Et voilà, et peut-être.
Elle a vraiment des grands yeux pareils.
Si elle avait croqué dans la chenille, peut-être qu'elle aurait vécu une expérience incroyable.
Ça me dégoûte un petit peu. J'imagine le liquide dans la chenille coulé dans ta gorge, tu vois, je suis là. Oh.
Je pense que ça passe.
Ah ouais, tu
ouais, dans Charlie la chocolaterie, tu sais.
À Koh-Lanta, ça passe, tu vois. Si t'es devant l'épreuve, tu le bouffes, tu vois.
Enfin, après, si elle est cuite, c'est mieux que si elle est encore vivante, quoi.
Clairement. Ah bah, clairement.
Ouais.
Ouais, non, là, elle allait pas se laisser faire, tu vois. Elle allait remonter contre sa gorge.
Stop.
J'arrête.
Le cocon et tout, le papillon.
Oula,
ce podcast.
Pardon.
C'est presque mignon ce que tu racontes.
Elle adore les papillons aussi.
C'est vrai.
Je l'ai dit, je le redis. Voilà.
Mais du coup, ça, c'était juste après mon kiff. Mon kiff, c'était retourner au théâtre.
Ouh.
Car je suis retournée au théâtre.
Trop bien.
Je pense que je suis plus allée au théâtre l'année du Covid que... Non, c'est une connerie, parce que j'allais beaucoup au théâtre quand j'étais au lycée, mais c'est une habitude que j'ai vraiment perdue, parce que, ça coûte cher, ouais, ça coûte très cher le théâtre, wesh. Donc là, j'étais invitée, donc j'en ai profité. C'était pour aller voir une humoriste, est-ce que je peux dire ça ? Elle est stand-upeuse, elle est chroniqueuse chez Nagui, elle est podcasteuse, elle s'appelle Fanny Ruet, vous la connaissez ou pas ?
Pas du tout.
De nom sur un Twitter. Ouais, voilà. Là, je connais bien, c'est ma grande sauce.
Voilà. Pas du tout. Elle fait, alors, moi j'adore ces podcasts que j'ai pas écoutés, mais qui j'adore le concept. Il y en a un, c'est juste, elle prend un livre et sans l'avoir lu, et basé sur le titre, elle imagine ce que ça va raconter.
Trop stylé.
Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, mon kiff est très très bien.
J'imagine les scénarios des livres que je n'ai pas lus.
Ouais, peut-être que c'est ça. Non, mais je sais plus.
Voyage au bout de la Bibli.
Ouais, c'est ça. Voyage au bout de la Bibli.
Je devrais être... Je suis autrice, n'oubliez pas.
C'est pour ça.
Ah, voilà. Alors, les gens qui doutent, ça, c'est ses interviews.
Ah, c'est elle qui fait ce podcast.
Ouais.
Parce que j'ai toujours voulu l'écouter, je l'écoute jamais, mais il est dans ma liste.
Eh ben voilà, Fanny Ruet, bientôt on écoutera tous tes podcasts.
On le mettra dans
les
notes
du podcast.
Exactement.
Voilà, je suis vraiment navrée, je l'ai su hier soir parce qu'elle en a parlé. Mais voilà, ça a l'air super. Et donc j'ai fait, j'étais à la Nouvelle Scène, qui est une scène où on faisait beaucoup des one-man shows à l'époque. Mm-hmm. C'était des spectacles de stand-up organisés par Mademoiselle avec des meufs... proche de Mademoiselle, enfin voilà, qui venait faire du stand-up, qui se lançait un petit peu, ça leur permettait de faire des premières scènes. C'est là que Camille Laurent, que vous connaissez sous le nom de Queen Camille, a commencé. Et donc c'était hyper sympa de retrouver cette petite péniche sous l'eau, finalement, parce que t'es dans la cale de la péniche pour regarder le spectacle. T'as un peu, parfois ça bouge un petit peu parce que t'as des bateaux à moteur qui passent, mais c'est très sympa. C'est une très belle scène, je trouve, enfin, qui est très en hauteur et tout le monde est à plat. Enfin, tu sais, il y a pas de pente,
de dénivelé.
On est tous au même niveau, mais elle est assez en haut pour que tout le monde voit bien. Et en fait, je l'ai trouvé très très cool. Déjà, c'est une meuf qui parle beaucoup de... Bah, comme tous les gens qui font du stand-up, qui parlent beaucoup de sa vie. Mais je trouve qu'elle a un spectacle qui s'écrit au fil de sa vie aussi. On sent qu'elle est encore en train de l'écrire. Et là, ça fait qu'un an qu'elle a commencé le stand-up et elle a déjà écrit un spectacle. Elle a genre 26 ans, je crois. Et elle parle de plein de trucs. Elle parle de malaise. Je trouve ça hyper bien, tu vois, de tabler sur le fait que... Enfin, elle raconte un petit peu qu'elle avait pas de potes quand elle était plus jeune, tu vois, et elle est hyper honnête à propos de ça. Enfin, je sais pas.
Elle est drôle.
Ouais, elle est drôle.
Ouais, parce que je me demande.
Ouais. Ouais, ouais, elle est marrante. Bah, moi, j'ai bien rigolé. Elle a un humour très noir. Elle est un peu cynique et tout. Moi, c'est un petit peu mon style, tu vois. J'aime bien le cringe, j'aime bien le malaise et tout. Donc, j'avoue que si vous aimez aussi Fanny Ruet, c'est votre girl. Et en fait, j'avais regardé un petit peu des chroniques d'elle avant. D'aller au spectacle des chroniques de chez Nagui. Et en fait, parfois, elle met vraiment mal à l'aise les autres gens de la radio, tu vois. Parce qu'elle va trop loin. Genre, vraiment, elle va trop loin. Et elle s'invente des trucs. Enfin, en fait, elle a des chemins de pensée qui vont hyper loin. Et il y a toute une partie de son spectacle où, en fait, elle fait une sorte de boucle où elle réécrit le début de son spectacle, mais d'un autre point de vue, comme si c'était une psychopathe. Et enfin, c'est très très marrant, tu vois. Et elle va super loin, elle pousse les blagues hyper loin et tout. Elle fait des blagues sur Marc Dutroux. Enfin, bon, c'est vraiment, ça va très loin. Mais j'avoue que moi, je suis un peu fan de ce genre de meufs qui vont très loin et qui aiment bien choquer, tu vois, un petit peu. Et qui n'ont pas peur aussi des vannes. Parce qu'il y a plusieurs vannes où les gens étaient là. Elle était là, ça vous fait pas rire, hein.
Ah oui, elle est blanc, quoi.
Ouais, et puis, mais elle a pas perdu tout ça, et elle en joue vachement aussi. Donc, franchement, très saucée d'être retournée
trop
au théâtre
bien.
Pour
ça a
voir
trop
ça.
Bien.
Ouais. Et j'avoue que j'aimerais bien aller voir une pièce aussi parce que bon, j'adore les humoristes, j'adore le stand-up et tout, mais j'avais vu une pièce là. Je pense que ça tourne encore. C'était By Miss Simone, un truc comme ça, Miss Simone. Qui était sur la fin de vie de Nina Simone, jouée par une actrice incroyable qui s'appelle Gina Jemba. Je l'adore. Et donc, elle joue toute la fin de vie de Nina Simone, qui s'appelle Eunice... Je sais plus. Enfin, elle s'appelle pas Nina Simone. Mais c'est toute la question sur son identité. Ouais, voilà. Vraiment, mon kiff est pas préparé du tout. Donc, je digresse sur d'autres kiffs. Et donc, elle... ouais, c'est la question de Nina Simone à la fin de sa vie. Déjà, je trouve que c'est bien parce que l'autre jour, j'ai tourné un podcast d'affiché.
Tout est connecté. Comment elle arrive à faire une boucle aussi grande.
J'ai tourné un podcast d'affiché avec Marina Tomé et Catherine Pifaretti. Donc, les deux ont créé au sein de Actrices et Acteurs de France Associés, donc AAFA, la commission Tunnel de la comédienne de 50 ans. Qui est une commission qui se bat pour briser l'omerta autour de l'agisme dans le cinéma, qui est en fait une représentation du réel. Et en fait, elles se sont rendues compte qu'à partir de 50 ans, à partir de la ménopause, les femmes ne sont plus représentées. Et c'est pour ça que le spectacle de Nina Simone était intéressant, parce que ça la représente justement en fin de vie, alors que les biopics, j'ai encore vu un biopic récemment de Aretha Franklin, les biopics s'arrêtent à 35 piges. Et je suis là, donc il se passe plus rien après.
C'est vrai que c'est
abusé. T'as plus aucune représentation de toi dans le futur.
Ouais, je suis vénère aussi.
Mais oui, parce que... Et elle disait, Marina et Catherine, du coup, que j'adore maintenant, vous retrouverez cet épisode d'affiché à la rentrée, il n'est pas encore sorti, mais elle disait, en fait, c'est une double violence. Et pour nous, qui ne pouvons pas représenter des femmes telles qu'on est, tu vois, et pour les jeunes femmes qui n'ont plus aucune perspective d'avenir, tu vois. C'est pas ce qui se passe après 50 ans. Genre, apparemment, t'es vieille et moche. Genre, vraiment,
l'imaginer.
C'est juste ça. C'est horrible. Enfin, elle sortait des chiffres dans le podcast. La moyenne d'une carrière d'une actrice, la moyenne de temps d'une carrière d'actrice, c'est 8 ans. Un homme, c'est 28 ans.
Wow. Ouais.
Le pic, c'est hardcore. Wow.
Mais en même temps, enfin, c'est hyper évident quand tu penses aux acteurs et aux actrices, ne serait-ce qu'hollywoodiens qu'on connaît,
ouais,
tu vois.
C'est vrai.
Globalement, à part Meryl Streep, en actrice,
ouais,
que tu peux imaginer qui jouent un rôle de meuf de plus de 50 ans.
Et qui sont pas
zéro,
des mères, qui sont pas juste rattachées à l'acteur qui est le héros, tu vois, alors que les acteurs, elles ont fait une liste à un moment dans le podcast où elles listent tous les rôles qui ont été attribués à des hommes de plus de 50 ans. Et donc, t'avais des médecins, t'avais des avocats, t'avais des machins, t'avais des trucs, t'avais plein de métiers différents. Et les femmes, elles sont mères, profs, et voilà. Genre, c'est tout. Et je trouve ça choquant. Bref, du coup, cette pièce de Nina Simone... c'est le portrait de la fin de vie de Nina Simone, qui du coup est catastrophique pour le coup. Enfin, c'est horrible. Elle a vraiment une fin de vie très compliquée, dans la solitude. Elle a plongé aussi dans l'alcool. Enfin voilà, mais c'est magnifique comme pièce. Je sais pas si elle tourne encore, mais je regarderai et je vous le mettrai dans les notes du podcast. Bref, tout ça pour dire que retourner au théâtre, c'était mon petit kiff. Et que Fanny Ruet, si vous aimez l'humour noir, allez-y. C'est très sympa.
On va aller cringer. Voilà.
Et vous allez cringer et vous penserez à moi.
Et si vous n'avez pas les moyens d'aller au théâtre, sur Culture Box, il y a encore le spectacle de mon frère. Je me permets.
Bah, bien sûr, mais vas-y, mais c'est l'autopromo.
Mais bien sûr.
Ton frère fait, est acteur ?
Ouais, oh, bah, j'ai comment il deux s'appelle frères. Il s'appelle François de Breuer, car nous avons des noms vraiment Marie-François. Enfin, voilà. Et mon frère a écrit et a joué très longtemps un spectacle qui s'appelle La Loi des Prodiges, qui il joue tout seul tous les personnages.
Wow.
Donc c'est un peu une perf et du coup de le voir même en vidéo c'est assez intéressant parce que enfin c'est cool en salle mais c'est très cool qu'il y ait une captation et c'est en libre service sur Culture Box donc France TV quoi.
Trop bien.
Et c'est encore dispo pendant 6 mois et en deux mots le pitch c'est l'histoire d'un mec qui devient politicien parce que il trouve que les artistes ne servent à rien dans la société et que ce sont des nuisibles et qu'il va falloir à un moment les rendre utiles et donc il y a tout un tas de personnages des femmes génial. Des hommes et ce personnage là et c'est assez drôle et en même temps c'est un peu politique et voilà La Loi des Prodiges François de Breuer c'est mon frère je l'aime
dans les notes du podcast
bisous François.
Et bien écoutez ça y est c'est la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était très cool.
C'était trop bien.
Je me suis bien marrée. On a bien digressé. Enfin voilà, c'était très. Non,
c'était qualitatif.
Vous avez trouvé que c'était de la merde.
C'était génial.
Okay.
J'ai l'impression que mon kiff il a duré 1h15 et que les vôtres ils ont duré 1 minute. Du coup, je me sens trop mal.
Mais le tien était particulièrement émouvant.
On a beaucoup digressé dessus. Ouais, c'est la faute d'Alix, c'est pas ma faute.
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup de choses à dire.
Et donc, j'ai quelque chose à dire. Parce que, en fait, Gargamel, c'est comme Gargarine.
Oh putain.
Mais dans les Schtroumpfs.
Waouh, c'est elle va loin.
Et si vous voulez retrouver Marie, eh bien, vous pouvez la suivre sur Instagram, comme on vous a dit, mais tu as aussi des podcasts.
J'ai un podcast avec Maxime Musca qui s'appelle Tourista, et on parle de voyage avec un invité, et on arrive au 10e épisode, là, qui va sortir bientôt, ou qui est sorti quand l'épisode d'LMK sort. Waouh, il y a beaucoup de fois le verbe sortir. Mais Tourista, ouais, vous pouvez nous suivre sur Insta ou sur toutes les apps de podcast si vous aimez le voyage. On parle de voyage, quoi.
Trop bien. Et on peut te suivre sur Twitch.
Sur Twitch, Insta, sur YouTube, sur TikTok. Twitter.
TikTok, n'oubliez pas TikTok.
Sur TikTok,
sur Tinder.
Sur OkCupid.
C'est vrai
les
que tu
gars,
fais la.
DM.
Moi, j'adore Un mari pour Marie.
C'est une série de vidéos voilà. Sur YouTube. Je le fais aussi sur Twitch.
Oui.
Donc, en fait, je vais sur Tinder, je cherche un mari pour mettre la bague au doigt. Et comme vous vous doutez, entre tous les hashtags MMM et les photos de poissons et machin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blagues que je peux faire. Je trouve pas de mec, mais par contre, on se marre bien.
Ouais. Bah, c'est le principe de Tinder, je crois, en ce moment. Ah, c'est la dèche. Bon, allez.
On parle allez, de notre célibat.
Ouais,
on coupe.
Super, quand même. Merci à vous, cher LM Crado, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, mettez-les sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Yes, Marie. Et si vous avez des dédicaces ou des jingles, envoyez-les à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Si vous avez des messages bourrés, envoyez-les sur Instagram à laisse-moi-kiffer. Et en attendant, la semaine prochaine,
touchez-vous bien, Kiki.